Et votre matinale info, c'est jusqu'à 9h avec Nikos Aliagas.
Bonjour chère Hélène Zélani.
Bonjour Nikos, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin.
L'exécutif attendu au tournant après le déchaînement de violence samedi sur les Champs-Élysées. Le Premier ministre doit faire des propositions à Emmanuel Macron et nous serons en ligne avec le kiosquier qui a tout perdu. Et si les pharmaciens pouvaient prescrire certains médicaments ou renouveler des traitements, proposition dans le cadre de la loi santé qui arrive à l'Assemblée. Et puis le foot, le PSG remporte facilement le classico du championnat de France, 3-1 contre Marseille. Merci Mbappé et Di Maria.
8h15, Audrey Casper-Morin recevra Brune Poirson, secrétaire d'État auprès de la ministre de la Transition écologique.
Europe 1. C'est l'une des images marquantes des violences de samedi sur les Champs-Élysées. Oui, il y a eu les vitrines cassées, taguées, les restaurants saccagés comme le Fouquet's. Mais ce qu'on retient, c'est aussi ce kiosque à journaux réduit en cendres, carcasse calcinée.
Et justement, nous sommes en ligne avec José Russo qui tenait ce kiosque. Bonjour, merci d'être avec nous sur Europe 1 ce matin. Vous, vous avez tout perdu. Vous êtes dans quel état d'esprit ?
J'essaie de rester dans le calme et faire les démarches à suivre. Pour tout ce qui est assurance et plainte. Moi, je suis salarié dans ce kiosque. Mmh. Mon patron, le kiosquier, est hospitalisé depuis 2 jours. Il a eu quelques petits soucis de santé, mais c'est vrai que le fait d'avoir vu à la télé ce qui s'est passé, ça l'a encore un peu plus effondré. Donc,
Une cagnotte a été mise en place sur Internet pour vous venir en aide.
J'étais très surpris. Moi, j'attends rien de cette cagnotte. Hein. C'est pas... Mmh. Si maintenant on gagne une cagnotte, je vais vous dire, hein, c'est vraiment... cette cagnotte doit être donnée à quelqu'un, je vais vous dire, c'est au sinistré.
Qu'est-ce que vous voulez dire au gouvernement, au président de la République ?
Moi, je me dis que maintenant, il faut être actif. J'espère qu'ils vont bouger, mais ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils le fassent.
Merci José Russo, kiosquier sur les Champs-Élysées.
Voilà, justement, comment faire pour que ce type de violence ne se reproduise plus ? C'est la grande question posée à l'exécutif ce matin. Édouard Philippe, qui reconnaît des dysfonctionnements dans le maintien de l'ordre, est attendu à l'Élysée à 11h30, doit faire des propositions à Emmanuel Macron qui veut frapper fort. Aurélie Herbemont.
Interdire les manifestations sur les Champs-Élysées, l'option est sur la table car Emmanuel Macron ne souhaite pas revoir de telles scènes. La question du maintien de l'ordre sera en tout cas au cœur d'une réunion tout à l'heure à l'Élysée. Le Premier ministre fera des propositions pour adapter le dispositif d'ici samedi prochain. Dispositif qui s'est révélé insuffisant samedi pour contenir les violences, reconnaît Matignon. Il faut dire que l'exécutif ne peut pour l'instant pas s'appuyer sur la loi anti-casseurs. Il doit d'abord attendre le feu vert du Conseil constitutionnel. Il faut qu'elle s'applique vite, mais d'ici samedi, ça me semble impossible, déplore une députée de la majorité, alors qu'une autre en veut à ses collègues qui ont eu des pudeurs de gazelle en s'abstenant de voter cette loi. Le gouvernement doit en tout cas réagir car la pression de l'opposition s'accentue face au regain de violence. Un conseiller ministériel est pessimiste pour la suite. Le diable est sorti de la boîte, dit-il. Ça va être difficile de le faire rentrer.
Aurélie Herbemont, et vraisemblablement le nombre de casseurs a été sous-estimé, 1500, soit le double des prévisions. Ce matin, 92 personnes sont toujours en garde à vue. Les Gilets jaunes annoncent d'autres actions pour les semaines à venir. Europe 1, il est 7h03.
La loi santé arrive aujourd'hui en première lecture à l'Assemblée avec notamment un enjeu majeur, l'accès aux soins.
Oui, en clair, le problème des déserts médicaux, mais en attendant les effets des mesures comme la suppression du numerus clausus, il va falloir trouver d'autres moyens. Mélanie Gomez, les députés de la majorité vont proposer des amendements pour donner plus de pouvoir aux pharmaciens.
D'abord, l'avantage avec les pharmaciens, c'est qu'il y en a partout sur le territoire. Contrairement aux déserts médicaux, les déserts pharmaceutiques, ça n'existe pas. C'est pourquoi les députés de la majorité ont décidé de s'appuyer sur eux. Ils pourraient devenir beaucoup plus que de simples commerçants, mais de véritables professionnels de santé, vers qui les patients pourraient se tourner quand ils ont du mal à trouver un médecin dans certaines situations. Dans la première proposition, les pharmaciens pourraient prescrire certains médicaments pour de petites pathologies comme l'angine, la conjonctivite ou la cystite. Une prescription qui énerve au plus haut point les médecins, même s'il est prévu qu'elle soit encadrée par la Haute Autorité de Santé. Autre proposition, elle aussi du député de La République En Marche, Thomas Meynier, elle serait de permettre aux pharmaciens de renouveler eux-mêmes certains traitements chez des malades chroniques.
Quand vous avez de l'hypertension, du cholestérol, que vous allez voir votre médecin tous les 3 mois, on peut très bien envisager que vous ne puissiez aller le voir que tous les 6 mois et qu'entre-temps, votre pharmacien vous renouvelle votre traitement.
Enfin, dernière proposition, en cas de rupture de stock, le pharmacien pourrait remplacer un médicament par un autre sans avoir à demander l'autorisation au médecin. Mais ça ne vaudrait que dans des maladies chroniques comme l'asthme ou l'hypertension.
Mélanie Gomez, spécialiste santé d'Europe 1. Et puis le cardinal Barbarin, reçu par le pape ce matin à Rome, l'archevêque de Lyon doit présenter sa démission après sa condamnation à 6 mois de prison avec sursis pour ne pas avoir dénoncé les abus sexuels d'un prêtre. Un jugement pour lequel il a fait appel.
Europe 1.
Dans un instant, la suite du journal avec Hélène Zélani, avec ce geste généreux de la part des enseignants d'un collège sensible de Strasbourg. On vous dit tout. Bonne matinée, bon réveil à tous sur Europe 1.
Votre matinale info, Nikos Aliagas.
La suite du journal avec Hélène Zélani. Nous allons partir à Strasbourg, où les enseignants d'un collège de quartier sensible de la Méno ont décidé de faire un geste pour les enseignants, pour les surveillants.
Oui, dans les établissements de ces quartiers difficiles, les personnels de l'éducation ont droit à une prime allant jusqu'à 270 €. Oui, mais pas tous, pas les surveillants. Mesure injuste, estiment les profs, qui ont décidé de leur offrir une partie de leur propre indemnité. Reportage d'Arthur Elmbaché.
Au cœur de ce quartier sensible, ils travaillent ensemble, même collège, mêmes élèves, mêmes difficultés. Les uns touchent la prime, les enseignants, les autres non, les surveillants. Alors les premiers, à l'initiative de Céline Ballas, prof d'histoire géo, ont décidé de verser au second une partie de leur prime.
Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une avance, là, hein, l'argent qu'on leur donne. Et on compte bien se faire rembourser par le ministère et que désormais ils touchent cette indemnité. Donc la question, c'est pas juste une question de solidarité, hein, c'est une question de faire valoir des droits.
Odillon gagne 1 200 € par mois. En CDD, comme tous les surveillants, il est touché, dit-il, par l'initiative de ses amis profs.
On était au courant, on savait que cette prime existait, mais la précarité du travail que nous accomplissons ici fait que nous ne pouvons pas réclamer cette prime, c'est peut-être se retrouver l'année prochaine sans contrat. Mais ça ne justifie pas que nous n'ayons pas cette prime-là, parce que en fait, nous travaillons dans le même établissement, dans le même cadre, et donc c'est bienvenu que les professeurs prennent cette initiative-là. C'est une question de justice, quoi.
Les enseignants ont expliqué leur démarche par courrier au ministre Jean-Michel Blanquer. Ils attendent les réponses de l'éducation nationale. Strasbourg, Arthur Elmbaché, Europe 1.
Boeing va corriger le dispositif anti-décrochage de ses appareils 737 MAX.
Oui, une annonce après les résultats de l'analyse des deux boîtes noires de l'avion qui s'est écrasé en Éthiopie. Des similitudes ont été relevées après l'accident d'un autre 737 MAX. C'était il y a 5 mois en Indonésie.
Football, le Paris Saint-Germain se rassure. Victoire contre l'OM hier soir au Parc.
3-1, occasion de se réconcilier avec les supporters qui ont mal digéré l'élimination en Ligue des Champions. Deux hommes ont fait le match, Jérôme Lacroix.
Oui, le 26e but en Ligue 1 pour Kylian Mbappé. C'est le meilleur buteur du championnat. Deuxième bon génie hier soir, l'Argentin Di Maria. Deux buts, une passe décisive. Di Maria, Mbappé, ces deux-là ont fait la peur et prolongent la série vertueuse de Paris face au rival. 7 ans et demi sans défaite. L'animation, elle était aussi dans les tribunes. Fumigène, bombes agricoles depuis la tribune des supporters parisiens les plus fervents en première période. Le bruit après le silence, hein, puisqu'ils ont boycotté le premier quart d'heure, désertant la tribune. Toujours fâchés de la rocambolesque élimination en Ligue des Champions, ils ont déployé des banderoles au texte acerbe, des bifetons à la place du cœur ou encore crédit illimité, exigence low cost. Mais il y a eu aussi des encouragements, hein, comme un début de rabibochage.
Jérôme Lacroix, Lyon a battu Montpellier 3-2, victoire de Reims contre Nantes 1-0 et match nul entre Bordeaux et Rennes 1 partout. Et puis vous avez une idée du prix d'un pigeon voyageur, Nikos ?
Ça se vend ?
Et oui, ça se vend. Ah bon ? Armando, c'est son petit nom. Ah bon ? Pigeon vedette d'un concours de colombophilie en Belgique, a été vendu hier plus d'1 250 000 €. Il devient ainsi l'oiseau de son espèce le plus cher au monde.
Il y a marqué pigeon là ? Merci Hélène Zélani pour le journal de 7h.
La matinale d'Europe 1. Nikos Aliagas.
Et il est 7h10, Nikos, c'est l'heure de retrouver Martin Fenot qui se trouve sur le terrain.
Vous êtes où ce matin, Martin ? Bonjour.
Bonjour Nikos. Alors écoutez, j'ai passé la nuit dans un immeuble assez extraordinaire.
Ah bon ?
Un petit bijou d'architecture. Je suis à Marseille, sur le toit de la Cité Radieuse, parce que le bâtiment, œuvre de Le Corbusier, pourrait bientôt perdre son label UNESCO. La menace, je vous explique, elle vient d'un projet immobilier, notamment 3 tours de 55 mètres de haut qui seraient construites là, juste devant le monument. Projet évidemment incompatible avec le classement au patrimoine mondial de l'humanité. Alors je peux vous dire que les habitants sentent un peu seuls pour la défendre, cette cité. Ils sont inquiets, écoutez.
Perdre l'UNESCO, ce serait une honte absolue. Notre immeuble, il est unique au monde. C'est la Mecque de l'architecture. l'architecture. Nous avons des visiteurs du monde entier qui viennent pour visiter cet immeuble. Je reçois des Japonais, des Sud-Américains, des Coréens, des Chinois, des Russes. Et le problème, c'est que la municipalité n'a pas conscience de l'importance mondiale de l'immeuble. Parce que Le Corbusier à Marseille, ça a toujours été la maison du Fada, la maison... Ouais, mais c'est pas que ça. C'est quand même le seul bâtiment de Marseille classé à l'UNESCO. L'immeuble étant un bijou, il doit être dans un écrin. Ouais.
Dans un écrin. Mais est-ce que les habitants ont les moyens de s'opposer à un tel projet immobilier, Martin ?
Alors pour l'instant, ils ont lancé une pétition qui a déjà recueilli 1500 signatures. Il faut dire qu'il y a un attachement très fort à ce lieu. C'est comme un village dans cet immeuble des années 50. Les étages sont des rues, une école, une bibliothèque, des commerces, un hôtel. Il y a même une piste pour courir. Je vous fais tout de suite entrer chez Geneviève, une des plus anciennes de la résidence.
Je défendrai jusqu'à mon dernier souffle. C'est pas seulement des murs et du béton. C'est un esprit de rencontre, de village vertical. On sent l'esprit de Le Corbusier dans tous les actes de notre vie. Ce personnage a su réunir dans cet immeuble tout ce qui pouvait faire le bonheur des gens. Et chaque période de ma vie a été un bonheur. Et ça, je pense que je ne l'aurais pas trouvé nulle part ailleurs. Par rapport à d'autres immeubles, il y a un souffle qui est là, le souffle d'un génie. Et j'aime vivre dans un endroit qui a été conçu pour être une cité radieuse.
Voilà, on a entendu le témoignage de Geneviève. Martin, est-ce que vous êtes renseigné pour savoir si des bâtiments ont déjà perdu un label UNESCO ? Est-ce que ça s'est passé dans le passé ?
Oui, Nico, c'est déjà arrivé. La ville de Dresde, par exemple, il y a quelques années, en Allemagne, a été déclassée à cause de la construction d'un pont dans son centre. Alors à Marseille, on n'en est pas là. La métropole se défend de vouloir faire une croix sur le label UNESCO et assure qu'il ne s'agit pour l'instant que d'un projet.
On suivra ça, le combat des habitants de la cité radieuse pour sauver l'inscription de l'UNESCO. Merci, Martin Fenot.
Nico Saliagas sur Europe 1.
À suivre l'édito Écho avec vous, Nicolas Barré. Ce matin, on va parler de constructeurs automobiles.
Et on va parler mariage, oui, parce qu'il y en a un dont on parle de plus en plus, entre Fiat et PSA.
Fiat Chrysler.
Voilà, Fiat Chrysler et PSA.
À 7h20, on va partir en Algérie avec les Algériens de France qui retournent au pays pour manifester. Et là-bas, ceux qui voulaient quitter l'Algérie, partir trouver du travail ailleurs, vivre en France aussi notamment, eh bien ils ne quittent plus le pays car ils veulent participer à leur histoire, à leur révolte. Dossier à suivre dans Europe 1 va plus loin.
Excellent réveil à tous sur Europe 1, il est 7h13. Les principaux titres de l'actualité à retenir ce matin, Nico Saliagas.
Édouard Philippe attendu à l'Elysée en fin de matinée. Le Premier ministre doit faire des propositions. Emmanuel Macron, après les violences de samedi sur les Champs-Elysées, les manifestations pourraient être interdites sur l'avenue. Le cardinal Barbarin au Vatican, il doit présenter sa démission au pape François après sa condamnation à 6 mois de prison avec sursis pour non-dénonciation d'abus sexuels sur des enfants. Le tueur de Christchurch en Nouvelle-Zélande a l'intention de se défendre seul. Les tirs dans 2 mosquées ont fait 50 morts. Le gouvernement donne son accord de principe à un durcissement de la loi sur les armes. Football, le Paris Saint-Germain désormais à 20 points d'avance à la tête de la Ligue 1. Victoire hier soir face à Marseille. 3-1.
Europe 1. Et c'est l'heure, Nico, de l'édito Eco avec la Société Marseillaise de Crédit, la banque pour ceux qui entreprennent au cœur des territoires. Société Marseillaise de Crédit, une des 8 banques du groupe Crédit du Nord.
Nicolas Barré, directeur de la rédaction du journal Les Échos. Bonjour Nicolas.
Bonjour Nicolas.
Alors il y a du mariage dans l'air dans le monde automobile et ça pourrait changer beaucoup de choses. Notamment, on parle d'un rapprochement possible entre le français PSA et le groupe Fiat Chrysler. Et c'est une hypothèse qui se murmurait depuis pas mal de temps, sauf que cette fois, apparemment, l'histoire s'accélère.
Oui, parce que les dirigeants des deux groupes ont évoqué publiquement, chacun de leur côté, la semaine dernière au Salon de Genève, la possibilité d'une alliance. Alors, sans dire ouvertement avec qui, mais enfin, on sait très bien que les deux familles Peugeot et Agnelli, qui sont des actionnaires importants des deux groupes, se connaissent bien, s'apprécient, se respectent. Et puis surtout, l'hypothèse d'un mariage entre les deux, alors qui est évoquée depuis très longtemps, c'est un peu un serpent de mer dans cette industrie, n'a jamais paru aussi pertinente finalement qu'aujourd'hui.
Pourquoi vous dites ça ?
D'abord, première raison, parce qu'il y a une révolution technologique en ce moment dans cette industrie. Vous savez, un géant comme Volkswagen, par exemple, a prévu d'investir 20 milliards d'euros dans les 5 prochaines années sur ces nouvelles technologies, notamment l'électrique. 20 milliards d'euros, c'est la valeur en bourse aujourd'hui de PSA quand même. Donc vous voyez, pour survivre dans ces prochaines années, il va falloir absolument avoir une taille critique. C'est ce qui explique aussi d'ailleurs que le trio Renault, Nissan, Mitsubishi ait réussi à surmonter ces divisions. L'enjeu, c'est la survie industrielle. C'est aussi ce qui explique que les deux ennemis allemands, BMW et Mercedes, ont décidé de s'allier dans la conduite autonome. ensemble. Alors ensemble, PSA et Fiat Chrysler produiraient 9 millions de véhicules.
C'est concret.
Pas très loin de Renault, Nissan et Toyota qui sont autour de 10 millions ou du groupe Volkswagen. Et puis ils sont complémentaires sur le plan technologique.
Et vous nous dites qu'un rapprochement entre PSA et Fiat Chrysler permettrait aussi à PSA de sortir d'Europe ?
Alors exactement, parce que PSA, ils sont en Chine, mais c'est très difficile. Ils étaient très présents en Iran, mais avec les sanctions américaines, ils ont été obligés de partir. Et ils ne sont pas du tout aux États-Unis, où Fiat Chrysler, bien sûr, est très gros. Alors tout ceci ne veut pas dire que le mariage va se faire, mais vous l'avez compris, le moment est bien choisi. Et puis l'État français, qui était entré au capital de PSA après la crise de 2008, quand ça allait vraiment très très mal, verrait d'un bon œil une telle opération, sachant qu'il n'a surtout pas du tout envie de voir l'autre gros actionnaire de PSA, qui est un Chinois, Dongfeng, prendre l'ascendant. Mieux vaut convoler avec un Italo-Américain qu'avec un Chinois, en tout cas en matière automobile. Pour le reste, je vous laisse juge.
Bah écoutez, si vous le dites, attachez votre ceinture. Nicolas Barré pour l'édito Écho tous les jours sur Europe 1.
Europe 1. Nikos Aliagas.
Il est 7h19, Europe 1 va plus loin, direction l'Algérie ce matin, Nikos.
Oui, parce que ça fait 3 semaines que le pays est secoué par des manifestations. Et 2 éléments montrent de manière très frappante que ce sont les Algériens du monde entier qui se mobilisent. Et d'abord en Algérie, où des jeunes qui étaient jusqu'à présent candidats à l'exil ne veulent plus partir, ils restent au pays, parce qu'ils veulent vivre l'histoire de leur pays, être acteurs dans ce qui est en train de changer. Nous serons à Alger dans un instant. Et l'autre aspect, c'est avec vous Mathieu Bloch, c'est la diaspora algérienne qui manifeste aussi ici en France, on la voit, on l'a vu, Place de la République notamment, et qui se rend aussi en Algérie pour participer au mouvement. Et ça, c'est nouveau.
Oui, tout est parti des différents reportages qu'on a effectués en France depuis le début du mouvement. Très régulièrement, durant les manifestations organisées à Paris ou à Marseille, les personnes qu'on a interrogées nous disaient spontanément que manifester en France, bon, c'est bien, mais qu'elles désiraient surtout se rendre en Algérie afin de participer à ce mouvement historique. Alors hier soir, je me suis rendu à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle afin de retrouver Samir, tout juste rentré d'Algérie par le dernier avion. Il s'est donc offert un aller-retour express pour le week-end. Et vendredi, il a donc passé la journée à manifester. Pour ce jeune ingénieur qui a été obligé de venir en France pour faire ses études, c'était très émouvant de rentrer chez lui pour protester.
C'était tellement magnifique. J'avais l'impression de découvrir un peuple que je n'ai jamais connu. Pendant tout le vol, j'ai fait que regarder les photos et les vidéos que j'ai pu prendre. C'est toujours compliqué, c'est-à-dire de même en rentrant ici en France à passer à autre chose, alors que j'ai l'impression d'avoir laissé tout mon cerveau et mes sentiments en Algérie. C'est vrai que ici en France, on fait de notre mieux en participant à la manifestation de République chaque dimanche. Mais je pense que la réelle manifestation et les réelles revendications se passeront à Alger. Depuis quelques semaines, l'idée qui me vient le plus dans la tête, c'est que pourquoi pas rentrer chez moi en Algérie afin de participer encore plus à la construction de cette nouvelle Algérie.
Voilà Samir que vous avez rencontré, Mathieu Bock, merci beaucoup. Direction à présent l'Algérie avec notre correspondant Nour Chahine. Bonjour Nour.
Bonjour Nikos.
Alors vous sur place, vous constatez autre chose, hein, peut-être complémentaire de ces manifestations. Ce sont ces jeunes qui hésitaient encore à partir il y a quelques temps et qui aujourd'hui attendent de voir ce qui va se passer et qui veulent vraiment participer aux évolutions, aux manifestations qui concernent tout le monde en Algérie.
En fait, ce qu'on remarque ici à Alger, c'est l'effet inverse de ce que vient d'expliquer Mathieu. Les Algériens candidats à l'exil, qui étaient des milliers à prendre la mer pour rejoindre l'Europe, disent aujourd'hui qu'ils préfèrent rester et peser sur l'avenir de leur pays. Comme Aleda, que nous avons rencontré à Alger, il a essayé 3 fois de s'exiler. Maintenant, il ne rêve plus d'Europe, mais bien d'Algérie.
À cette époque, il y avait encore des problèmes de sécurité. Je suis monté clandestinement sur un ferry pour Marseille. La police m'a arrêté et j'ai passé 4 mois en prison. Aujourd'hui, avec Internet, les jeunes sont au courant de tout ce qui se passe. Moi, j'ai de l'espoir, j'aime mon pays. Je veux bien retourner en Europe, mais en tant que touriste.
Voilà donc pour vous dire, je me suis rendu sur le port rencontrer Nadia Delidi. C'est son association qui prend en charge ceux qui étaient arrêtés, les exilés clandestins. Elle constate le phénomène depuis le début de la contestation. Avant, il y avait des dizaines d'arrestations chaque jour. Aujourd'hui, il n'y en a plus une seule.
Non, il n'y en a plus, j'entends plus, parce que moi j'ai les échos. Ils préfèrent maintenant sortir dans la rue, manifester. Je dirais cette jeunesse a transmis un message de dire « manorohush » en terme arabe, on ne part pas, on reste là. Et j'ai été très, très fière.
Et c'est d'autant plus grisant pour cette jeunesse algérienne que c'est souvent la première fois qu'elle descend dans la rue pour scander des revendications politiques.
La mobilisation des deux côtés de la Méditerranée en Algérie avec les jeunes candidats à l'exil qui ne partent plus et qui veulent rester chez eux. Et puis la diaspora algérienne qui fait pas mal d'allers-retours entre le pays dans lequel ils habitent et le pays d'origine. Merci Mathieu Bock ici à Paris et Nour Chahine à Alger pour ce dossier signé Europe 1 va plus loin.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
Anissa Mbida, bonjour.
Bonjour Nikos.
Qu'est-ce que vous avez en magasin ce matin?
J'ai une innovation formidable parce qu'elle utilise notre téléphone portable pour remplacer les yeux quand on devient malvoyant.
Vraiment?
Oui. On va l'essayer ensemble.
À tout de suite.
Bon réveil à tous sur Europe 1, 7h23. Il est 7h26, EDF, partenaire de la transition énergétique, vous présente l'innovation du jour. Et l'innovation, Nico, c'est avec Anissa Mbida.
Il y a en France 2 millions de malvoyants à Nice ce matin. Vous avez une solution pour leur simplifier la vie, c'est-à-dire pouvoir utiliser la caméra du téléphone portable pour remplacer les yeux en quelque sorte.
Oui, et c'est vraiment génial, ça transforme le téléphone en caméra parlante. Donc on l'accroche autour du cou avec la caméra qui pointe devant soi. D'accord. Et ensuite, il y a un programme qui décrit tout ce qui passe devant l'objectif de la caméra. Par exemple, si on l'utilise dans ce studio, il va dire
ordinateur, clavier, micro, table.
Ah, c'est dingue.
Oui, c'est formidable.
Il fait de la reconnaissance en fait.
Exactement. Et si je sors un billet par exemple et que je le place devant, il va dire
billet de 10 euros.
Et ce qui est quand même très très pratique pour, parce que c'est pas toujours facile de reconnaître quel billet on a sous les yeux, dans la main par exemple, quand on rien qu'au toucher. Et ça marche comme ça avec les textes imprimés, les notes manuscrites. Hein. Donc ça peut vraiment aider tous ceux qui ont des problèmes de vue aujourd'hui.
Ça marche aussi pour les personnes?
Alors il faut d'abord lui apprendre le visage de la personne pour qu'il puisse la reconnaître. Sinon il va se contenter de faire quelque chose comme ça.
Probablement un homme avec des lunettes assis devant un micro.
Ouais, c'est moi. Ouais.
Alors jusqu'ici, les applications étaient assez basiques et elles étaient payantes.
Tout ça pour ça.
Comme
plus de notoriété, rien.
Non, mais si je lui dis que c'est Nikos, il va dire « Ah tiens, c'est Nikos qui est devant vous, mais je ne lui ai pas encore appris. » Donc je disais que ces applications jusqu'ici, elles étaient assez basiques, elles étaient payantes. Et on les appelait iPolyVision par exemple ou Smart Eyes. Et maintenant, il y a des mastodontes comme Google, comme Microsoft qui viennent de s'intéresser. Ouais. Donc ces applications deviennent extrêmement perfectionnées. Et en plus, elles sont gratuite. Ça s'appelle Seeing AI ou Lookout. Il y a vraiment, vraiment beaucoup d'innovations autour de la malvoyance. Et pour cause, la vue, c'est un de nos sens les plus importants aujourd'hui. Et malheureusement, elle finit systématiquement par baisser.
Et ça peut marcher aussi avec les animaux domestiques, j'imagine.
Oui, on peut reconnaître.
Avec les voitures, ouais. On peut reconnaître la marque, tout ça. Avec, avec Céline, ça marche.
Céline Kalman.
Je vais lui faire apprendre Céline.
Non, Céline.
Bon, Céline Acosta, tout le monde la connaît. Même
Non, mais
bravo Anissa Mbida, j'espère que ça fera du bien dans le quotidien des malvoyants.
Ouais, c'était l'innovation du jour avec EDF. Se chauffer, s'éclairer, se déplacer. Aujourd'hui, EDF innove au cœur des territoires pour accélérer la transition énergétique. Toutes les infos sur edf.fr. Dans 2 minutes, justement, elle arrive, Céline Kalman. Mais tout de suite, c'est la météo avec Laurent Cabrol.
Et qui ne le connaît pas? Qui ne reconnaît pas cette voix?
Je sais pas, mais en tout cas...
Il y a des gens qui attendent de s'habiller en ce moment. Ils ne savent pas ce qu'ils vont mettre parce qu'ils attendent ce que vous allez dire.
Eh bien, on va interroger ceux qui regardent pour nous là-haut. Ce sont les satellites parce que on n'a pas Dieu, mais eux en ont pour nous. Et les satellites nous montrent une France sous les nuages. Une France qui est pas très belle ce matin. Oh, elle fait un peu une grise mine. Mais ça va s'arranger dans la journée. Sur la Lorraine, l'Alsace, la Franche-Comté et les vallées alpines, vous pouvez faire attention ce matin, prendre un petit imperméable. Mais dans la journée, vous n'aurez pas trop l'occasion de quitter. Au revoir. Sur la Bretagne, la Basse-Normandie et la Loire-Atlantique, progressivement, les nuages vont se rassembler et nous aurons quelques giboulées dans ces régions. Donc prenez de quoi vous abriter. Sur la Haute-Normandie, les Ardennes et la région parisienne, quelques ondées ce matin, mais ensuite les éclaircies vont apparaître, notamment sur l'île de France, dans le centre, partout ailleurs, sur le Limousin, sur le Massif central, la Bourgogne, le sud-ouest. Ce sera un temps de plus en plus, disons, lumineux. Température aujourd'hui entre 10 et 16 degrés. Attention au vent en Méditerranée, à tout à l'heure.
À tout à l'heure, cher Laurent Cabrol. À suivre à 7h40, Jean-Michel Apathy, les saccages de ce week-end sur les Champs-Élysées, le dispositif de maintien de l'ordre qui n'a pas fonctionné, le gouvernement est montré du doigt, 7h43, Axel de Tarlé, double facture après ce samedi noir, d'un côté les commerçants touchés, de l'autre la triste image que donne la France, notre pays à l'étranger. À 7h45, un témoignage fort, celui de Nicole Beltrame, la mère du lieutenant-colonel Arnaud Beltrame. Elle sera mon invitée presque un an, jour pour jour, après les attentats de Trèbes. Elle publie « C'était mon fils » aux éditions Albin Michel. Excellent réveil à tous sur Europe 1.
Et bienvenue ce lundi 18 mars, il est 7h30.
7h, 9h.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
7h30, le journal avec Céline Kallmann. Bonjour Céline.
Bonjour Nikos, bonjour à tous. Le pape va-t-il accepter la démission du cardinal Barbarin? Ce dernier va être reçu à 10h ce matin au Vatican. Le plus haut dignitaire catholique français a été condamné à 6 mois de prison avec sursis pour ne pas avoir dénoncé les abus sexuels d'un prêtre. Mais il a fait appel, ce qui pourrait changer la décision prise ce matin. Virginie Riva.
Le pape est confronté à un dilemme, explique son entourage. Il pourrait refuser la démission du cardinal Barbarin. C'est la grande crainte des proches de l'archevêque de Lyon. Il faut que l'église de Lyon passe à autre chose, explique-t-il. Mais surtout, c'est Barbarin lui-même qui ne veut plus continuer. Trop épuisé, disent-ils. Selon nos informations, sa lettre de démission a même été adressée à Rome 15 jours avant le jugement. Barbarin voulait donc absolument quitter le diocèse de Lyon, qu'il soit condamné ou pas. Le problème, entre-temps, c'est que Barbarin a fait appel, rallongeant la procédure judiciaire. Le pape François l'a toujours affirmé, pas de décision avant que la justice ne soit définitivement rendue, ce qui pourrait prendre des mois, voire un an. Ce que redoutent le plus ses proches, c'est la solution de compromis. Le pape pourrait nommer un administrateur pour gérer le diocèse jusqu'à l'appel. Une chose est sûre, Philippe Barbarin devrait dans tous les cas rester cardinal, c'est-à-dire électeur du prochain pape.
Virginie Riva.
4 mois après le début des manifestations des Gilets jaunes, la violence est encore montée d'un cran samedi. Et cette question qui revient, les forces de l'ordre et le gouvernement avaient-ils bien évalué l'ampleur des menaces?
Oui, les Champs-Élysées ont été saccagés, des dizaines de commerces pris pour cible, vitrines brisées, boutiques pillées, des kiosques à journaux réduits en cendres, des dizaines de personnes se retrouve au chômage technique, sans parler de l'ampleur des dégâts matériels considérables. Emmanuel Macron a promis hier des décisions fortes, mais lesquelles? Le gouvernement a admis des dysfonctionnements dans le dispositif de sécurité. Ce matin à 11h30, Édouard Philippe va présenter des solutions au chef de l'État. 250 personnes ont été placées en garde à vue, 92 l'été toujours hier soir. Tous n'ont pas été interpellés dans la capitale. Europe 1 vous révèle que 5 gilets jaunes ont été arrêtés dans un train Paris-Orléans, chargé d'objets visiblement volé sur les Champs-Élysées. Pierre de Cossette.
C'est leur fanfaronnade qui les a perdus dans le train qui les ramenait chez eux dans le centre de la France. 5 passagers qui avaient quitté Paris en partant de la gare d'Austerlitz se vantent alors d'avoir sur eux des objets volés sur les Champs-Élysées. La conversation n'échappe pas à un autre voyageur qui prévient la police. Le trajet du Quintet s'arrête donc plus tôt que prévu en gare des Aubrais à côté d'Orléans. Les policiers les attendent et les arrêtent. Bingo, une cafetière Nespresso, une dizaine de vêtements, Hugo Boss et Célio, et un collier Swarovski, provenant de boutiques dévalisées. Les suspects ne sont pas des petits jeunes, ce sont 4 femmes inconnues de la justice et un homme connu pour alcool au volant. Ils sont âgés de 40 à 55 ans. Originaire de Montluçon, dans l'Allier. Des gilets jaunes qui ont déclaré en garde à vue avoir trouvé toutes ces affaires par terre, mais jamais avoir cassé de vitrine. Ils seront jugés début juin pour recel de vol.
Pierre de Cossette du service police-justice d'Europe 1, c'est dans ce contexte qu'Emmanuel Macron va s'entretenir ce soir à l'Élysée avec une soixantaine d'intellectuels pour échanger dans le cadre du grand débat.
Boeing est en train de finaliser le développement d'un de ses logiciels après le crash de l'Ethiopian Airlines.
Oui, le manuel de formation des pilotes est aussi en train d'être révisé. Les boîtes noires ont montré des problèmes similaires sur les circonstances des 2 récents crashs de ce type de Boeing. Les explications de Xavier Tittelmann, consultant aéronautique.
Les autorités éthiopiennes ont été capables de dire qu'il y avait des similitudes vraiment très importantes entre le crash du Lion Air du mois d'octobre dernier et donc celui qui a touché l'Ethiopie il y a une semaine, c'est-à-dire un avion qui monte, au moment de rentrer ses volets, il y a le pilote en tout cas qui est en train de lutter contre son avion, qui est en train d'essayer de descendre. Il y a un souhait des pilotes de revenir vers l'aéroport de départ, et clairement il y a une incapacité des pilotes de gérer la situation. Et là certainement qu'on a des éléments complémentaires, par exemple, la cause de la mise en descente de l'avion, c'est effectivement ce système de protection et ce ne sont pas les pilotes qui se mettent en descente. Donc là, on peut imaginer qu'effectivement, on voit que c'est réellement au moment de sortir et de rentrer les volets qu'il y a des problèmes, parce que c'est à ce moment-là que ce système de protection se déclenche de manière inopportune et met l'avion en piqué.
Xavier Tittelmann avec Gian Bergawi. En Nouvelle-Zélande, l'auteur de la tuerie de Christchurch compte assurer lui-même sa défense. Cette nuit, le gouvernement néo-zélandais s'est dit d'accord sur le principe de durcir la loi sur les armes. Ce matin, des dizaines de tombes étaient en préparation au cimetière de la ville après l'attaque des 2 mosquées de Christchurch.
Et les médias se mobilisent à l'occasion de la 30e édition de la Semaine de la Presse.
L'occasion de sensibiliser les plus jeunes à la manière de s'informer. Jeudi soir, Europe 1 sera en direct d'un lycée de Vernon dans l'Eure avec Mathieu Béliard et le ministre Jean-Michel Blanquer. En attendant, Virginie Salmen a rencontré des lycéens en Normandie et leur a demandé comment ils se tenaient au courant de l'actualité.
Ils ont 14, 15 ou 16 ans et quand on leur demande comment ils s'informent, la réponse la plus fréquente c'est « je regarde des stories sur mon smartphone ». Des stories, c'est-à-dire un petit condensé de l'actualité avec photos, vidéos, un peu de texte. Tout ça défile sur une application type Instagram ou Snapchat, l'un des médias favoris des ados, comme Louise, élève de seconde.
Je m'informe sur Snapchat, c'est-à-dire que par exemple il y a Le Monde qui va tous les jours mettre une story sur Snapchat. C'est un peu plus ludique.
Mais quand un sujet l'intéresse beaucoup, elle est aussi capable de lire un article du Monde, même si la plupart des élèves préfèrent de loin les vidéos plus dans leur culture, raconte Cassandre.
Je trouve ça plus humain à prendre avec des pincettes, mais plus humain parce qu'on voit vraiment la personne, on peut essayer de ressentir ce qu'elle ressent.
Ce qui est frappant aussi, c'est l'utilisation qu'ils font de YouTube, comme par exemple Thibaut et Tanguy.
Je peux très bien y rester 30 minutes comme je peux y rester 8 heures. La semaine où j'ai le plus regardé YouTube, j'ai fait 27 heures une semaine. Oui.
En fait, j'ai remplacé la télé par YouTube parce qu'on peut choisir ses programmes quand on a envie. Et on choisit le sujet de quoi ça parle, tout ça.
Beaucoup d'élèves disent regarder les infos seulement le soir, pas dans la journée, et d'autres à peine une fois par semaine.
Reportage signé Virginie Salmen.
Et puis il y a ceux qui écoutent Céline Kallmann tous les matins à 7h30.
Tout à fait.
Et ou ceux qui regardent Brunch aussi sur Instagram. On a aussi nos propres stories. Aussi. C'est vrai que la story revient à la mode. Un mot de football peut-être.
Oui, Paris a battu Marseille 3-1 hier soir en championnat.
Céline Kallmann pour le journal. Merci beaucoup, bonne journée.
Nico Saliagas sur Europe 1.
Messieurs, Jean-Michel Apathy et Axel de Tarlé.
Bonjour Nicolas.
Vous allez parler de quoi ce matin?
Après le saccage des Champs-Élysées samedi, des têtes pourraient tomber aujourd'hui. On va donner des noms.
Vous avez des noms?
Je vais en donner, oui, des noms.
Et vous, Axel de Tarlé, vous avez des noms?
Moi, j'ai donné des chiffres. Après, je vais m'interroger sur les conséquences économiques de ces violences qui durent depuis maintenant 4 mois.
Des chiffres et
des noms.
Des noms. Et des noms.
Apathy Tarlé dans un instant sur Europe.
Bienvenue à vous, il est 7h37. Il est 7h40, Nico Saliagas, l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy.
Et ce jour noir, ce samedi noir sur les Champs-Élysées, 18e journée de mobilisation des Gilets jaunes marquée par une très grande violence. On a vu les images, elles ont fait le tour du monde. C'est terminé, dit le président de la République. Jean-Michel Apathy, est-ce que ça sous-entend que le gouvernement a quelque part failli dans sa mission de maintien de l'ordre?
Oui, la réponse est claire. Bien sûr, c'est oui. Et puis c'est pas moi qui le dis, c'est le président de la République qui l'a dit avec colère, selon les témoins, quand il rentre samedi soir de son séjour au ski à la Mongie. Hop, il rentre plutôt que prévu. Mmh. Il va au PC de sécurité de Place Beauvau. Et là, c'est un président très en colère et qui, effectivement, dit ce que tout le monde a vu. Les forces de police étaient mal disposées. Elles n'ont pas su anticiper la violence. Et là, en quelque sorte, et le Premier ministre Édouard Philippe et Christophe Castaner sont sous la douche. Ceci dit, le principal responsable, selon le chef de l'État, c'est le préfet de police de Paris, Michel Delpuech, qui est accusé, qui a été accusé dans cette réunion et hier par plusieurs membres de l'exécutif d'avoir mal disposé les policiers dans la capitale, de ne pas avoir tenu suffisamment compte des remontées de renseignements généraux qui faisaient état de nombreux casseurs qui seraient à Paris dimanche. Celui qui porte le chapeau, c'est lui. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure au cours de la matinale, le Premier ministre va retrouver le président de la République à l'Élysée à 11h30 pour tirer les leçons de tout ça, pour prendre des décisions. Alors, il y aura peut-être des décisions techniques, mais un ministre disait hier soir aussi que la question du remplacement de Michel Delpuech, préfet de police de Paris, était sur la table. Donc, on suivra tout cela. Le Premier ministre devrait communiquer dans la journée ou au plus tard demain matin sur les modifications du dispositif policier. Il y a deux enjeux pour l'exécutif, parce que maintenant, les choses sont très claires. Samedi prochain, on ne peut pas connaître les violences que l'on a connues samedi dernier. Ça n'est pas possible. Cela poserait une question d'autorité, de crédibilité du gouvernement. Ça ouvrirait une crise politique. Et puis, à un peu plus long terme, Emmanuel Macron a besoin de calme pour tirer les leçons du grand débat. Donc, il faut que les violences cessent. Et tout à l'heure, donc, des dispositions devraient être prises pour qu'elles cessent. Mais ça n'est pas facile. Mmh. Parce qu'il faut quand même noter la mutation du mouvement des Gilets jaunes, qui a commencé il y a 4 mois.
Après semaine. Maintenant.
Oui, mais c'est un mouvement qui a changé. Au départ, c'est une revendication du pouvoir d'achat. Aujourd'hui, c'est un mouvement idéologisé. Il est anti-libéral, anti-parlementaire, anti-élite. Le mouvement des Gilets jaunes appelle et encourage la violence. Et c'est pour ça que les Black Blocs se sentent aussi à l'aise dans ce mouvement.
Mais les Black Blocs sont-ils des Gilets jaunes?
Mais les Black Blocs sont bien accueillis par les Gilets jaunes. Tous les témoignages et toutes les images montrent que samedi, les Gilets jaunes présents applaudissent les Black Blocs anti-casse, voire participent à la casse, au saccage et au pillage. Le raisonnement des Gilets jaunes est très simple. Tant que nos revendications ne sont pas satisfaites, la violence est légitime. Comment maintenir l'ordre dans une société démocratique quand des citoyens ne jouent plus le jeu de la démocratie? C'est la difficulté à laquelle est confronté le gouvernement.
Jean-Michel Apathy, son analyse quotidienne sur Europe. Axel de Tarlé, ce samedi noir, c'est aussi un gros coup dur économique. D'abord pour les commerçants, on a entendu ce matin l'un des kiosquier, la détresse d'un kiosquier des Champs-Élysées. Et c'est un coup dur aussi pour l'image du pays.
Voilà, en fait, exactement, la facture économique, elle est de deux ordres. D'abord, il y a effectivement tous les coûts visibles. Alors, vous parliez du kiosquier. Je lisais aussi ce matin, par exemple, que le cinéma, le Marignan sur les Champs, devait remplacer 14 vitres. Chaque vitre coûte 2 600 euros. Donc faites la facture, pour lui ça fait une facture vitrier de 36 000 euros. Depuis le début du mouvement, la Fédération des assurances chiffre à plus de 170 millions d'euros le coût des dégradations, sans compter les pertes de chiffre d'affaires. Le cinéma, il a fait zéro entrée samedi. Alors là, Bruno Le Maire avait estimé qu'avec tous les ronds-points bloqués pour le quatrième trimestre, la facture avait été de 0,2 point de croissance. 0,2 point de croissance, ça fait près d'un milliard d'euros de perdus.
Et en termes de coûts, on a entendu, mais en termes d'image, ces violences dégradent aussi l'image du pays parce que ça fait le tour du monde. Moi, les gens m'appelaient de l'étranger en me disant « mais ça va, vous êtes en sécurité ou en danger ?»
Rendez-vous compte, même les joueurs du PSG qui pourtant, en termes de chahut, s'y connaissent dans les stades, même eux s'en émeuvent. Vous avez la star du PSG, Thomas Meunier, qui a tweeté « pauvre France aux yeux du monde ». Alors on pense tout de suite aux conséquences sur le tourisme. Les Champs-Élysées, c'est la vitrine de la France. En décembre dernier déjà, après les premières émeutes, le nombre d'arrivées à Paris de touristes étrangers avait baissé de 10%. Et qui vient le moins d'ailleurs? Ce sont malheureusement les touristes les plus dépensiers. Ce sont les Asiatiques qui sont le plus sensibles à ces violences, à ces images de violence. Le tourisme, c'est 60 milliards d'euros de recettes en net, qui rentrent dans la France. Donc 5% de touristes en moins, ça fait 3 milliards en moins pour le pays. Et puis deuxième conséquence, c'est l'image de luxe de la France. Le luxe, c'est notre premier poste à l'export. C'est 50 milliards d'euros que nous vendons de produits de luxe. Et ça consiste en quoi le luxe? Ça consiste à vendre du rêve. On vend l'image de la parisienne chic. C'est le ressort de la marque L'Oréal Paris, par exemple. Sauf que la parisienne chic, en ce moment, elle se retrouve prise dans des scènes de guérilla urbaine. Imaginez L'Oréal Paris, j'imagine, a beaucoup de mal à communiquer en ce moment sur le glamour de Paris. Donc vous voyez, il y a des conséquences immédiates qui se chiffrent en centaines de millions d'euros, du chiffre d'affaires perdu, des vides cassées. Et puis il y a des conséquences en termes d'image. Et là, on parle en termes de milliards d'euros.
Merci beaucoup. Axel de Tarlé, quotidiennement sur Europe 1 pour le Zoom Echo.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
C'était il y a un an, déjà, un acte d'une incroyable bravoure qui avait ému la France entière. Le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame était assassiné en tentant de sauver une otage aux mains d'un terroriste dans le super-U de Trèbes. Sa mère, Nicole Beltrame, publie un livre. C'était mon fils, aux éditions Albin Michel. Elle est mon invitée tout de suite sur Europe
1. Il est 7h45.
Et le 7h46, les principaux titres à retenir ce matin, Nikos Aliagas.
Édouard Philippe va faire des propositions à Emmanuel Macron aujourd'hui après un samedi de violence sans précédent sur les Champs-Élysées. Le pape François reçoit le cardinal Philippe Barbarin au Vatican ce matin à 10h. Il va lui remettre sa démission, mais pas certain qu'il l'accepte, car même si le cardinal a écopé de 6 mois avec sursis, il a fait appel. Le Paris Saint-Germain a dominé l'OM, 3 buts à 1 hier soir, toujours privé de Neymar et Cavani. Les Parisiens ont battu les Marseillais, notamment grâce à 2 buts d'Angel Di Maria.
Europe 1. Nikos Aliagas, un an après les attentats de Trèbes qui ont fait 5 morts et 15 blessés, vous recevez ce matin Nicole Beltrame, la mère du lieutenant-colonel Arnaud Beltrame. Elle publie « C'était mon fils » aux éditions Albin Michel. Le 23 mars 2018, Arnaud Beltrame était mort en héros en prenant la place d'une otage dans le super U de Trèbes.
Bonjour madame.
Bonjour Nikos.
Dans quelques jours, vous publiez le 23 mars un ouvrage. Ça va faire un an. Vous publiez le 23 mars, ça fait un an, je voulais dire, que votre fils a perdu la vie, il a été assassiné. Où est-ce que vous trouvez la force d'abord d'écrire cet ouvrage et de venir en parler ce matin?
Mon cœur s'ouvre pour qu'Arnaud puisse continuer de vivre, si vous voulez, et qu'on puisse témoigner et ne pas l'oublier par rapport à ce geste extraordinaire qu'il a fait pour sauver des gens. Et ce livre, justement, c'est l'ouverture de la compréhension de qui était Arnaud, comment et pourquoi il en est arrivé là. Et je dis beaucoup que je comprends, ça pouvait pas être autrement.
C'est-à-dire?
Et c'est tout ça, ce livre. Parce que quand on voit le fil de sa vie, de
ses choix.
de ses choix. Ça a été tout au long de sa vie, ça a été de se donner pour la patrie, l'idéal, mais pas inconsciemment. Il a travaillé tout au long de son parcours, justement, pour être performant, pour être le combattant qu'il était et qui n'a pas réussi, justement, à sortir de ce pas, parce que finalement, ça s'est joué à très peu de choses.
Il a fait son devoir, il a fait son métier, écrivez-vous dans l'ouvrage. Vous avez appris l'attaque par hasard à la radio.
Oui.
Vous entendez qu'un lieutenant-colonel est blessé à Trèbes et instinctivement, vous écrivez que vous savez qu'il s'agit de votre fils.
Absolument. Oui, j'ai eu mal au ventre. Et c'était une certitude. Et bon, j'explique que j'ai eu Damien, etc., tout le parcours que je décris dans le livre. Mais pour moi, c'est une certitude. Voilà.
C'est l'instinct de la mère à ce moment-là.
L'instinct de la mère.
Et vous n'en parlez pas aux autres, à ceux qui sont autour de vous?
Ah non, 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 non. Non, mais moi, je ne suis pas alarmiste, je ne suis pas pessimiste. Et je veux dire que j'ai une grandeur d'âme où je gère et je prends sur moi. Je combats, moi aussi.
Ne jamais montrer votre souffrance.
Jamais. On est dans un pays où on est toujours en train de se lamenter. Et je veux dire qu'on a, moi qui voyage beaucoup aussi à travers le monde, j'ai envie de dire qu'on est dans un pays merveilleux et qu'on peut être vraiment très heureux.
Votre fils a pris la place d'un otage et vous dites, et vous y tenez, il ne s'est pas sacrifié.
Absolument pas. Absolument pas. Arnaud, il avait fait une simulation quelque temps avant. Il m'avait dit, maman, il y a beaucoup de travail à faire parce que c'est un poste qu'il venait de prendre et il devait en plus en faire un autre début avril. Donc, Je répète que quelque part, il a refait la scène et je le voyais très bien. Enfin, lui a dû penser qu'il sortait avec le terroriste l'ayant combattu, bien évidemment.
Ouais.
À aucun moment, il allait se sacrifier. Ça ce sont
Il avait même l'intention de se marier.
Bah, c'est pas l'intention, c'était prévu.
Ouais.
C'était prévu le 9 juin 2018, à Trédion. Il était déjà marié civilement avec Marielle. Il avait prévu d'avoir des enfants. D'ailleurs, sur sa petite table, on avait vu le livre « Comment élever des enfants », etc. Donc, à aucun moment, je n'accepte qu'on parle de sacrifice.
Ouais, c'était pas, il n'y est pas allé en tête brûlée pour sacrifier. Mais il est allé pour faire son devoir, pour sauver des vies.
Bah, évidemment.
Et pour sauver Julie aussi. Julie,
oui, entre autres.
Vous l'avez rencontré, vous avez discuté.
Non, mais ça, c'est pas le problème. Le principal, c'est qu'elle soit sauvée, qu'elle soit vivante et qu'elle profite de la vie. Là-dessus, moi, je n'attends rien de personne.
En revanche, vous ne voulez pas que nous citions, nous, journalistes, le nom du terroriste.
Absolument, lui montrer son visage, parce que ça, je veux dire, ça sert à rien. Je veux dire, ce qu'il faut montrer, c'est les choses positives,
oui, vous le faites
les belles
pas
choses.
Dans votre livre, vous n'en parlez pas.
Non, il n'existe pas pour moi.
Il n'y a même pas de haine.
Oh non, ce serait trop donné. Non, sûrement pas. C'est de l'indifférence. Hein. Non, non.
Votre fils disait, tu sais maman, c'est la patrie d'abord, la famille après.
Absolument. Ça a toujours été comme ça. Il est né, j'ai envie de dire, il est né pour la patrie. C'était son Graal. Et c'est pour ça que j'en ai jamais été étonnée qu'il défende, qu'il soit dans cette situation-là. De toute façon, il avait déjà fait quelque chose au préalable en Irak. Bon, mais c'est pas des choses qu'il racontait. Je veux dire, c'était le parcours de sa vie, c'était ses choix. Et moi, je pars d'un principe que je suis une maman qui respecte le choix de mes enfants, des gens qui sont autour de moi. J'ai un grand respect.
Dans l'ouvrage, Nicole Beltrame, vous parlez aussi de l'intervention dans le détail, de la façon dont lui est intervenu. Et au moment où il a appelé ses camarades en disant « assaut, assaut », ils n'ont pas été là tout de suite.
Et voilà, il y a eu ce silence. Mais moi, je veux dire que l'enquête suit son cours. Et il faut que ça serve effectivement pour s'il y a des situations analogues, que ça puisse servir. Vous savez, c'est comme tout, quand il y a quelque chose qui se passe mal, on fait en sorte que ça se passe mieux les fois d'après.
Et tout le monde
simplement
se protège. Certains disent aussi qu'ils n'auraient pas respecté la procédure.
Mais vous savez, si vous laissez les gens se faire tuer, que vous respectez les procédures, que vous faites trois papiers, et ben il va, je veux dire, ça ne correspond pas au personnage d'Arnaud et à son tempérament, à ce pourquoi il était de toute façon fait. Et c'était aussi son métier et le parcours qu'il a eu. N'oubliez quand même pas qu'il a été major à plusieurs reprises. Je veux dire qu'il a été parachutiste. Enfin, je veux dire, il a fait des choses extraordinaires que l'on peut découvrir au travers du livre. Et
il n'y a pas de procédure à ce moment-là. Il y a des actes et des responsabilités.
Oui, c'est ça. Puis de toute façon, le livre, justement, c'est le fil de l'enfant, du bébé, de la maman qui met au monde un enfant et qui explique comment et pourquoi il devient un héros.
Nicole Beltrame, depuis le drame, vous recevez de très nombreuses lettres, des témoignages. Tout le monde vous écrit. Il y a plus de 200 rues en France qui portent aujourd'hui le nom Arnaud Beltrame ou Colonel Beltrame. Il est particulièrement érigé en symbole de l'Union nationale. Pourtant, aujourd'hui, avec l'actualité. On voit que parfois, concernant les gendarmes, concernant les forces de l'ordre, la population est divisée. Quel est votre sentiment ?
Alors, mon sentiment, c'est que la population, quand quelque chose ne va pas, a toujours besoin des pompiers, des gendarmes et des policiers. Et je ne comprends pas et je ne supporte pas qu'on puisse maltraiter et ne pas respecter l'uniforme. Je dis haut et fort qu'on doit respecter les uniformes. Mmh.
C'est-à-dire ce que vous dites dans votre ouvrage Passant 44, je ne supporte pas en France qu'on crie sans cesse haro sur les policiers et les gendarmes. Ce sont les victimes qui prennent bien souvent le dessus.
Absolument. Je le dis encore une fois ici à Europe 1.
Merci madame.
Merci Nikos.
Nicole Beltram, un ouvrage publié chez Albin Michel. C'était mon fils.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
À suivre dès le début du journal de 8h, retour sur les Champs-Élysées après ce samedi noir marqué par de très graves violences. Et puis dans une minute, la petite histoire avec Jean-Philippe Ballas. L'hommage très émouvant d'un groupe de motards néo-zélandais aux victimes de l'attentat de Christchurch. A tout de suite.
Il est 7h53, à tout de suite avec Nikos Aliagas sur Europe 1. Il est 7h56, c'est l'heure de la petite histoire du jour, Nikos.
Vous savez quoi, tous les jours avec vous, Jean-Philippe Ballas, et ce matin, un AK à la mémoire des 50 victimes de Christchurch en Nouvelle-Zélande.
Oui, comme vous sans doute, j'ai toujours été impressionné par ce rituel maori, cette danse du bout du monde, le AK. Et comme vous sans doute, c'est grâce aux All Blacks, les matchs de rugby, que je l'ai découvert. Mais le AK que vous entendez derrière moi ce matin n'a pas retenti dans un stade, non ? C'était à quelques mètres de l'une des mosquées de Christchurch et c'est une bande de vieux motards, de bikers qui est venue rendre hommage. A priori, rien à voir avec la communauté musulmane, le chef porte des Santiago, un blouson de cuir. Mais justement, ce sont tous ces parcours, toutes ces différences qui font l'identité, l'unité de la Nouvelle-Zélande. C'est notre communauté, toute notre communauté, raconte le motard. La foule applaudit et se rassemble une nouvelle fois. Évidemment, on remarque cette jeune mariée qui apporte son bouquet de cérémonie, des roses blanches qu'elle dépose près des barrières. Il y a aussi le voile noir de la première ministre néo-zélandaise qui ferme les yeux et serre dans ses bras les familles de victimes. Et puis des AK, encore partout sur une plage d'Australie, solitaire au milieu de la nuit, des AK spontanés et mouvants de lycéens, d'étudiants. Alors c'est vrai, vu d'ici, ce rituel vous semblera peut-être guerrier, mais vous savez quoi ? Là-bas, ce matin, en Nouvelle-Zélande, il exprime davantage le respect pour ceux qui sont partis et la force qu'il faudra trouver pour ceux qui restent.
Le deuil et le respect exprimés en Nouvelle-Zélande avec vous ce matin, Jean-Philippe Ballas.
À suivre le journal de David Doucan, mais tout de suite, c'est la météo avec Laurent Cabrol, Nikos.
Laurent Cabrol, oui. Encore une journée bien arrosée, apparemment.
Oui, pas
vraiment, non.
Je me suis emballé. J'enlèverai bien.
D'accord, non, arrosé.
Arrosé tout court et arrosé de manière sporadique. Vous savez, il faut quand même bien dire à nos amis qu'on va bénéficier d'une période extrêmement agréable, celle qui arrive. Alors, on vous parle du beau temps qui va durer jusqu'à dimanche.
D'accord.
Moi, je peux vous garantir, presque vous garantir que le beau temps va durer encore une bonne quinzaine de jours.
Ah.
Donc vous voyez que c'est quand même très très lointain et qu'on est parti pour une période sympathique. Donc on ne va pas trop se plaindre. Si on a un peu de pluie aujourd'hui, il y aura un petit peu de pluie en Lorraine-Alsace, Franche-Comté, dans les vallées alpines. Sur Lyon, pas grand-chose, hein, une goutte ou deux. Sur la Bretagne, la Basse-Normandie et l'Atlantique, la Loire-Atlantique, ce sera progressivement de plus en plus nuageux. Là, ça va se gâter un peu. Et puis ça va s'alléger sur le Nord-Picardie, sur les Ardennes et la région parisienne. Nous aurons quelques rayons de soleil. Ailleurs, ce sera bien sûr nuageux, bien sûr une ou deux averses, mais c'est tout. Les températures maximales entre 11 et 14 degrés, donc on serre les doigts si on n'aime pas la pluie, on serre les pieds, et puis après, je vais dire les pieds, et ensuite, on attend les 15 jours qui viennent qui seront très beaux.
Merci beaucoup, en tout cas, vous nous avez fait une promesse, il fera beau. Je le note, attention.
Oui.
Merci Laurent Cabrol, à tout à l'heure.
Merci d'avoir choisi Europe 1 ce lundi 18 mars. Et très bon réveil à tous, il est 8h. Votre matinale info continue jusqu'à 9h avec Nikos Aliagas.
Le journal de 8h est présenté par David Doucan. Bonjour cher David.
Bonjour Nikos, bonjour à tous.
Toute l'actualité du jour avec vous.
Qui pouvait franchement croire que le problème était réglé ? Les Champs-Élysées ont une nouvelle fois été saccagées après le fiasco du dispositif de sécurité. Des annonces du gouvernement sont attendues. Seront-elles à la hauteur ? Page complète dès le début de ce journal, dans laquelle nous zoomerons sur les Black Blocs. On les a bien vus à l'œuvre samedi. Ils sont connus et sévissent depuis des années. Alors pourquoi ont-ils pu agir impunément ? Enquête Europe 1 dans un instant. Le Paris Saint-Germain qui inflige une défaite 3 buts à 1 à l'Olympique de Marseille. Normalement, rien de tel pour rendre heureux les supporters parisiens. Eh bien, vous verrez que même cela ne suffit pas après l'élimination en Ligue des Champions par Manchester United.
À 8h12, Vincent Hervouet, la Slovaquie qui s'apprête à élire, non pas un, mais une présidente. Et puis Audrey Crespo-Mara à 8h15, qui accueille Brune Poirson, la secrétaire d'État à l'écologie qui manifestait samedi pour le climat. Voilà, à tout de suite, juste après ça.
Europe 1.
Les Champs-Élysées sont-ils condamnés à devenir les champs sinistrés? Boutiques saccagées, kiosques à journaux calcinés, quel fiasco samedi sur cette avenue, cible des casseurs et de certains gilets jaunes depuis 18 semaines. Allons tout de suite à la rencontre des principaux intéressés, les commerçants, les travailleurs qui arrivent en ce moment. Bonjour, Giannuccio.
Bonjour David.
Vous êtes en direct sur l'avenue des Champs-Élysées. On imagine, Aude, le ras-le-bol et une forme d'impatience aussi vis-à-vis du gouvernement.
Oui, vous l'entendez comme chaque lundi matin, le bruit des balais qui raclent le verre pilé devant les magasins a remplacé celui des flashs des appareils photo des touristes. Mais aujourd'hui, la lassitude laisse place à la colère. Selon Michel, kiosquière, ça ne peut plus durer. Elle a assisté ce samedi à un niveau de violence jamais atteint.
Ils sont haineux. Moi, j'ai entendu dire, quand ils étaient devant chez le Fouquet's, Marie-Antoinette sort de là. C'est la révolution, mais c'est n'importe quoi. Moi, j'attends de la fermeté contre les casseurs. Mais une vraie fermeté, hein, pas de les relâcher au bout de 5 minutes. Hein. Je veux des vraies lois contre tous les casseurs et les pilleurs. Mais vous savez qu'auparavant, parce que moi, je suis là depuis quand même plus de 35 ans, les manifestations étaient interdites sur les Champs-Élysées. Mais comme on a commencé avec la Coupe du Monde, là, cette année, là, mais non, ça devrait être interdit.
Et en guise de présentoir ce matin, le coffre de sa voiture où sont disposés quelques journaux. Image désolante pour Julie qui travaille pour une grande marque sur cette avenue. Elle réclame une solution générale pour arrêter les manifestations.
Bah que Monsieur Macron, le président, prenne une décision, que tout le monde soit satisfait et qu'on puisse aller vers de bonnes résolutions pour que la France aille mieux. Ne pas fermer les commerçants parce que c'est quand même leur gagne-pain. Et ne pas fermer les Champs-Élysées non plus parce que si elle est fermée, c'est qu'on baisse les bras, quoi.
Alors les revendications sont diverses, mais l'attente est très forte. Ce que les commerçants et restaurateurs exigent, c'est une réponse enfin efficace.
Merci Aude Vernuccio. Alors justement, la réponse du gouvernement, elle doit venir aujourd'hui. Bonjour Mickaël Darmon.
Bonjour.
Des annonces sont prévues, Mickaël, au terme d'une réunion à 11h30 à l'Elysée. On sait qu'Emmanuel Macron veut tout simplement interdire les manifestations sur les Champs-Élysées.
Et oui, il a expliqué, selon nos informations, à ses collaborateurs ce week-end après les violences. Je vous cite le président qui parle donc autour de lui. Samedi, les gilets jaunes sur les champs n'étaient pas une manifestation, c'était une émeute. Ce n'étaient pas des manifestants, mais des casseurs. Le gouvernement doit protéger les Français et en particulier ceux qui travaillent. Et il conclut et il martèle, donc désormais je veux qu'on interdise donc sur les Champs-Élysées ces rassemblements, c'est terminé. Voilà ce qu'a dit effectivement donc Emmanuel Macron à l'Élysée après donc les violences. Une telle décision aurait forcément des conséquences, hein, avec un risque tout simplement de déplacer les affrontements vers d'autres quartiers. Oui. Mais surtout, dans cette course-poursuite entre gilets jaunes radicaux et le gouvernement, bien la seule réponse policière ne suffira pas, parce qu'un fait s'impose, hein, cet acte 18 est un avertissement pour tous ceux qui pensaient que le succès du grand débat avait suffi pour régler la crise. On le voit, la fièvre n'est pas retombée.
Merci à vous, Mickaël Darmon, du service politique d'Europe 1. On verra en effet si les annonces en fin de matinée suffisent à empêcher que se réitère ce genre d'événement.
Cher David, arrêtons-nous maintenant sur les Black Blocs. On en parle beaucoup. Qui sont-ils?
Oui, on les connaît même par cœur. Cela fait des années qu'ils sévissent. Ce sont des groupes violents qui s'habillent en noir au dernier moment. On savait qu'ils seraient présents samedi. Alors comment ont-ils pu commettre autant de dégâts? Enquête Europe 1, signé Jean-Jacques Herry.
Si les Black Blocs ont pu agir aussi brutalement samedi, c'est d'abord parce qu'ils étaient très nombreux. Selon le ministère de l'Intérieur, il y avait 1500 individus ultra-violents, infiltrés et dissimulés au sein de milliers de gilets jaunes. Autre élément qui a pu jouer en faveur des casseurs, l'empathie des manifestants. Lorsque le Black Bloc s'est formé, un regroupement d'individus très mobiles, masqués et vêtus de noir, certains manifestants ont d'abord applaudi les bris de vitrine sans forcément participer. Un relatif soutien qui a rendu plus difficile l'intervention des forces de l'ordre. Sylvain Boulouk, spécialiste des mobilisations collectives, a également dénoté des changements dans le mode d'action des Black Blocs, synonyme selon lui de l'arrivée de nouveaux membres.
Je prends juste un exemple qui s'était déroulé le 1er mai. Des Black Blocs avaient tenté de mettre le feu au McDonald's. D'autres personnes leur avaient dit non, il y a un immeuble d'habitation au-dessus et ça met la vie des personnes en danger. Cette fois-ci, il y a eu le même phénomène, mais les autres Black Blocs n'ont pas pu empêcher cet incendie de la banque avec la propagation aux états supérieurs.
Enfin, tout prouve que l'action avait été étaient minutieusement préparés en amont. Les contrôles de police mis en place aux entrées de Paris n'ont d'ailleurs rien donné samedi dernier. Aucun marteau, aucune barre de fer n'ont été découverts.
Une enquête Europe 1 signée Jean-Jacques Herrier. J'ajoute que le ministre de l'Intérieur sera auditionné demain par la commission des lois du Sénat. Christophe Castaner devra s'expliquer devant les parlementaires. Le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, qui sera lui aussi entendu, recevra aujourd'hui des représentants des secteurs d'activité touchés.
Le projet de loi santé arrive aujourd'hui à l'Assemblée nationale.
Oui, une nouvelle carte hospitalière avec la création d'hôpitaux de proximité, de nouveaux pouvoirs pour les pharmaciens, mais surtout avec notamment la fin du numerus clausus, le gouvernement lance le Big Bang de la première année de médecine. Ève Roger.
Dès septembre 2020, l'évaluation des étudiants de première année sera moins bête et méchante qu'aujourd'hui avec le fameux QCM. Déjà, ils auront une formation enrichie, moins de maths, moins de physique, mais plus de sciences humaines et sociales. Et en fin d'année, ils passeront des écrits et, grande nouveauté, un oral pour évaluer leurs qualités humaines, qualités si précieuses quand on veut devenir médecin. Et parce qu'il faut diversifier les profils, la loi crée une seconde porte d'entrée en deuxième année. Pour 30 à 50% des étudiants, ce n'est pas encore défini. Eux arriveront de droit, de philo ou d'histoire, mais ils auront aussi choisi ce qu'on appelle une mineure santé, c'est-à-dire des cours de biologie par exemple. Ils passeront directement en deuxième année à condition de réussir un examen qui sera aussi sélectif que celui de leurs camarades. Et pour ceux qui n'arriveront pas à décrocher la deuxième année, au lieu de revenir à la case départ, à bac plus zéro, comme c'est le cas aujourd'hui, eh bien chacun continuera dans sa filière d'origine, en santé pour les premiers, à défaut de devenir médecin, ils seront ingénieurs ou journalistes en santé, en droit, philo ou histoire. Pour les autres.
Ève Roger, pour Europe 1. Le cardinal Barbarin sera ce matin à Rome. Il sera reçu au Vatican. Philippe Barbarin présentera sa démission au pape François. Je vous rappelle qu'il a été condamné à 6 mois de prison avec sursis pour non-dénonciation des abus sexuels d'un prêtre.
Europe 1.
À suivre dans le journal, le feuilleton du Brexit. Theresa May pourrait finalement renoncer à faire passer au vote une troisième fois son accord. On vous dit tout dans le journal de David Toucan. A tout de suite.
Votre matinale info, Nico Saliagas.
La suite du journal avec David Doucan. Un nouvel épisode commence dans le feuilleton du Brexit.
Oui, nous sommes le 18 mars et normalement, les Anglais sont censés nous avoir quittés dans 11 jours. Mais rien n'est moins sûr. Theresa May voulait essayer une troisième fois de faire adopter le texte de divorce par les députés. Toutefois, elle pourrait y renoncer. La correspondance d'Anaïs Cordoba.
Si pas d'espoir de l'emporter, pas de vote. L'heure tourne avant le Conseil européen, mais par crainte d'un nouvel échec, Theresa May pourrait renoncer à soumettre pour la troisième fois son accord aux députés. C'est ce qu'indiquaient hier deux de ses ministres à la télévision. Pour l'emporter, elle doit convaincre 75 députés. Ce week-end, elle a donc renouvelé la pression sur les élus pro-Brexit. Si vous rejetez mon accord, nous risquons un report long et peut-être pas de Brexit du tout, a-t-elle prévenu. Son gouvernement est aussi en pleine tractation avec les 10 députés du parti nord-irlandais. S'ils accordent leur soutien, alors de nombreux élus conservateurs eurosceptiques pourraient suivre, mais ça ne sera pas suffisant pour assurer une victoire. Theresa May aura aussi besoin d'au moins quelques voix parmi les députés travaillistes pro-Brexit, mais leur leader, Jeremy Corbyn, a déjà indiqué qu'il donnerait la consigne de voter contre l'accord. Londres, Anaïs Cordoba, Europe 1.
En Nouvelle-Zélande, après le massacre de Christchurch vendredi, le gouvernement s'apprête à durcir la législation sur les armes. L'auteur de la tuerie a annoncé qu'il se défendrait seul, sans avocat. Un jeune néo-zélandais qui avait relayé sur Internet la vidéo du carnage a été inculpé. Je vous rappelle que 50 personnes ont été assassinées dans une attaque à l'arme de guerre ayant visé deux mosquées.
Retour en France, football, Paris Saint-Germain, OM hier soir au Parc des Princes. Victoire, 3 buts à 1 pour Paris. On imagine maintenant que les supporters parisiens sont contents, ça y est.
Eh bien non. Alors, comment ça, non, non. La pilule Manchester ne passe pas, ah, Nikos. On est encore loin de la réconciliation entre les ultras du Paris Saint-Germain et le club. Julien Froment.
Malgré la victoire, malgré un grand Real Di Maria, les supporters ultra-parisiens ont encore en travers de la gorge la déroute européenne de leur équipe. On n'oublie pas crédit illimité, exigences low cost ou encore des bifetons à la place du cœur. Voilà ce qu'on a pu lire dans les travées du Parc des Princes. Pour les fans du PSG, la page Manchester est difficile à tourner.
C'est pas la victoire contre Marseille qui va faire ça. On est toujours déçus du match contre Manchester.
Manchester, c'est dur. Réconciliation, il n'y a pas de réconciliation. Il faudra attendre l'année prochaine, encore une fois.
Là, ils gagnent contre Marseille, c'est il faut, parce que c'est le classico. Mais non, on leur en veut un peu encore, bien sûr.
L'entraîneur Thomas Tuchel, lui, ne comprend toujours pas le comportement de ses propres supporters.
Je ne sais pas à nous de dire pardon. Je peux seulement répéter, c'était un accident. Je pense que tout le monde peut ressentir que cette équipe est une unité. Ce n'est pas nécessaire de dire pardon.
Pour la réconciliation totale, il faudra donc encore attendre, d'autant plus que les ultras se sont aussi fait remarquer pour de mauvaises raisons. Usage de fumigènes, jet de bombes agricoles, le club, mais aussi les supporters, risquent de lourdes sanctions de la part de la commission de discipline de la Ligue.
Julien Froment, du service des sports d'Europe 1.
Vous êtes de quelle équipe
Ah ben moi j'aime bien le Paris Saint-Germain, je ne l'ai jamais caché.
Et vous êtes satisfait après la victoire d'hier ou vous l'en voulez encore?
Mais non, mais quand on soutient un club, on le soutient même dans la difficulté.
Voilà. Même dans l'épreuve. C'était David Doucan, comme tous les jours à 8h.
À demain.
La matinale d'Europe 1. Nico Saliagas.
Et les 8h12, coup d'œil à présent à l'actualité internationale avec Vincent Hervouette, Nico.
Bonjour Vincent Hervouette.
Bonjour Nico.
Élection présidentielle en Slovaquie ce week-end. Bientôt une femme de plus à la tête d'un pays européen. C'est une bonne chose.
Elle s'appelle Susana Caputová. Il y aura un second tour dans 15 jours, mais ce sera une formalité. Une femme en Slovaquie, c'est la première fois. Il n'en reste que 10 pays sur 28, les plus méditerranéens, c'est fatal, à n'avoir pas essayé, à refuser la responsabilité suprême aux femmes politiques qui sont, on est prié de le croire, des hommes politiques comme les autres, mais en mieux. Plus coriace, voyez Angela Merkel ou Theresa May. En Slovaquie, le président fait de la figuration et une présidente sera tout aussi décorative. Zuzana Caputová est avocat environnementaliste. En inaugurant les chrysanthèmes, elle plaidera pour la diversité des boutures. Elle est progressiste, elle veut le mariage pour tous, comme le marché pour tous. Oui. En prime, elle jure de lutter contre le mal. Pas le mal blanc de plus de 50 ans, le mal qui est le contraire du bien. Elle promet aussi davantage de décence en politique et davantage de justice. On dirait un programme de talibans. Mmh. Ça marche car les Slovaques ont été choqués par l'assassinat il y a un an pile d'un journaliste avec sa compagne. Il enquêtait sur les fraudes aux fonds européens et sur les liens avec la mafia calabraise et les politiciens socialistes dans l'est du pays. Le scandale a fait tomber le Premier ministre, Robert Fico, et l'affaire a rebondi jeudi dernier avec l'inculpation du commanditaire du meurtre, un affairiste lié au Parti socialiste. En Slovaquie, on voit les juges ont le sens de l'opportunité, eux aussi sans doute prétendent lutter contre le mal.
Parce que vous nous dites que la mafia calabraise est bien présente en Europe centrale.
Oui, l'Europe centrale est un hub pour les investissements mafieux et la Greta, par exemple, ferait 50 milliards de chiffres d'affaires. Alors, Zuzana Caputová n'a pas de recette, mais en incarnant la lutte du bien contre le mal, elle a discrédité le candidat du parti au pouvoir. Et c'est vrai qu'elle pouvait difficilement jouer la progressiste contre le populiste plus ou moins France, son adversaire est vice-président de la Commission européenne. Maros Šefčovič est commissaire à l'énergie. Après avoir été en charge de l'éducation, puis de la santé, c'est le vétéran absolu de la Commission en orbite depuis 10 ans. Alors, il n'a pas réussi à atterrir chez lui. Mais avec Zuzana Caputová, on le voit, le progrès est en marche, les commissaires dans leur commissariat, les mafieux invisibles et les femmes au pouvoir.
Merci pour ce portrait de Zuzana Caputová, bientôt présidente de la Slovaquie. Vincent Hervouette, tous les jours sur Europe 1.
Nico Saliagas sur Europe 1.
Audrey Crespo-Mara, bonjour et bonne semaine.
Bonjour Nico, bonjour à tous.
Avec qui vous voulez commencer la semaine?
Eh bien écoutez, je vais vous donner des indices. Vendredi, elle marchait avec les étudiants pour défendre la planète. Mais au même moment, l'Assemblée nationale et donc la majorité gouvernementale retardaient de 3 ans l'interdiction de certains pesticides. Brune Poirson, secrétaire d'État à l'écologie, sera mon invitée ce matin, notamment pour s'expliquer sur cette contradiction.
A tout de suite.
Il est 8h15. Il est 8h18, Nico Saliagas.
La secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire, Brune Poirson. Et votre invitée Audrey Crespo-Mara, bonjour.
Bonjour Brune Poirson.
Bonjour à vous, Audrey.
Samedi, c'était la 18e journée de violence à Paris depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. Comment se fait-il que le gouvernement ne parvienne toujours pas à garantir l'ordre au cœur même de la capitale?
Effectivement, nous n'y sommes pas. C'est ce qu'a dit le président de la République samedi. Il faut, et nous allons continuer à revoir notre doctrine, elle avait été remaniée, elle avait été repensée, notamment suite aux événements du 1er décembre. Il faut continuer de s'adapter. Vous savez, on n'est pas dans le cas de manifestation ici. Hein. Nous sommes c'est de la barbarie, c'est de la sauvagerie. Ce sont des gens qui sont là pour détruire la République.
Mais le gouvernement est incapable d'y répondre, manifestement.
Nous sommes et nous allons continuer à nous adapter. Vous savez, c'est un nouveau type de menace aussi sur lesquelles il faut que nous continuions de travailler. Aujourd'hui même, il va y avoir des annonces et des propositions claires.
Le Premier ministre reconnaît lui-même qu'il y a eu des dysfonctionnements. À qui la responsabilité ? Au ministre de l'Intérieur, clairement ?
Je crois que là, ce qu'il faut, c'est surtout travailler sur les solutions et les réponses à apporter à cette barbarie et à cette sauvagerie. C'est ça, et c'est là-dessus que nous devons nous concentrer. Si on commence à jouer, à s'accuser les uns les autres, c'est pas comme ça qu'on continuera à avancer. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, bien sûr, toute la mesure de ces dysfonctionnements sera prise.
Le président qui skie à la Mongie, alors que c'est le chaos au cœur de la capitale, ça aussi c'est un dysfonctionnement ?
Le président de la République, est-ce qu'il a été de retour à Paris le samedi ? Oui.
Retour
est-ce
précipité.
Est-ce qu'il a tenu une réunion avec les ministres concernés, oui. Encore une fois, le président de la République, il va pas se mettre à courir après, et s'il avait été à Paris, il se serait pas mis à courir après chaque casseur sur les Champs-Élysées.
L'image est terrible.
Il a suivi dans le détail les événements de la journée et il est rentré immédiatement à Paris.
Le président savait que l'ultimatum posé par les Gilets jaunes laissait présager de graves violences à Paris. Donc son retour précipité prouve-t-il qu'il a commis une erreur ?
Non, encore une fois, il a suivi les événements de façon très régulière tout au long de la journée et il est rentré à Paris. Je peux le répéter encore une fois, c'est pas lui qui allait courir derrière chaque casseur sur les Champs-Élysées, derrière chaque personne.
Mais vous avez vu la force des images et ça révolte aussi les gens.
Les images du président de la République assis au travail le jour même avec Christophe Castaner, le Premier ministre ?
Est-ce qu'on s'oriente, Brune Poirson, vers une interdiction des manifestations sur les Champs-Élysées samedi ?
Je peux pas vous répondre pour le moment. Je vous ai dit que dans la journée, il y aurait des annonces qui seraient faites, des annonces claires.
Mais c'est pas
toujours
exclu,
est-il
en
qu'il
cas.
Faut, en tout cas, il faut s'adapter à ce niveau de sauvagerie.
C'est pas exclu, donc, cette interdiction. Brune Poirson, vendredi, vous avez participé à la marche des jeunes pour
Absolument.
Le climat. Quand la secrétaire d'État à l'écologie manifeste pour réclamer au gouvernement d'en faire plus sur l'écologie, c'est un symbole d'impuissance ?
Non, vous savez, moi, une des choses fondamentales dans ma vie, c'est mon engagement pour la transition écologique et solidaire. C'est là-dessus que j'ai construit mon passé professionnel et que je continue, c'est le centre de mon engagement. J'ai une petite fille qui a 4 ans. Pour moi, aller manifester pour le climat.
Mais vous êtes...
Pour le climat, c'est fondamental. Et je soutiens ces jeunes-là qui ont envie de se lancer dans un vrai projet de société.
Mais vous êtes secrétaire d'État. J'imagine que vous n'avez pas crié avec le slogan « Macron, t'es foutu, les pandas sont dans la rue ».
Non, mais
c'est
ça,
bien
ça...
une plus forte action du gouvernement qui est réclamée.
Mais parce que moi, je considère qu'ils ont raison de demander une société qui fait sens. Vous savez, normalement,
souvent
les lycéens, ils vont manifester, surtout, je ne nie pas ce qu'ils ont fait, je veux pas le balayer des mains, mais ils vont souvent manifester pour aller et éviter, par exemple, d'aller en cours. Et là, au contraire, il y a un vrai objectif derrière ça, il y a un vrai engagement, et c'est pour ça que j'ai voulu le soutenir et que je continuerai à le faire. C'est une manifestation, c'est une marche pour le climat. Vous savez, c'est pas le gouvernement. Moi, je me lève pas tout. Non, mais Audrey Crespo-Mara, je me lève pas le matin en me disant, mais tiens, comment est-ce que je vais faire pour faire en sorte qu'on pollue encore plus ? Pas du tout. Je suis mue par la même motivation, par la même envie de changer les choses qu'eux.
Alors, vendredi, quelle ironie. Pendant que vous manifestiez pour le climat, l'Assemblée nationale, et donc la majorité gouvernementale, autorisait la fabrication en France de pesticides dangereux pour 3 ans de plus que prévu.
Moi, je vous l'ai dit, je me suis rendue à cette manifestation pour le climat parce que c'était fondamentalement important pour moi d'y être et j'y serai à nouveau. Je suis allée vendredi et samedi, donc pour moi, c'est tout à fait cohérent comme engagement. Donc, pour répondre à cette question précise de la décision qui a été prise sur les produits phytosanitaires, c'est une décision qui s'explique. Mais c'est une décision que je regrette. C'est une décision que je regrette. Et je la regrette d'autant plus que ça m'exaspère, ça m'énerve. Ça m'énerve parce que c'est encore ce point noir-là que toutes nos oppositions vont utiliser pour faire croire qu'on ne fait rien sur les questions climatiques en France. Or, nous faisons énormément. Nous sommes le gouvernement qui allons fermer les centrales à charbon et on y travaille déjà. Nous sommes le gouvernement qui va fermer Fessenheim alors que le gouvernement précédent a dit qu'il le ferait et qu'il ne le ferait jamais. Nous sommes le gouvernement qui prenons des mesures drastiques de lutte contre la pollution. Nous sommes le gouvernement qui est très engagé en Europe, peut-être le plus ambitieux et qui pousse tous les autres pays européens. Nous sommes
action.
Le gouvernement qui, par exemple, juste là, était en Afrique et a mobilisé 50 milliards d'euros pour la transition écologique en Afrique. Nous sommes le gouvernement qui est au pied de guerre sur la question climatique et nos oppositions utilisent des petites choses pour faire un écran de fumée. Et c'est pour ça que cette décision-là, eh bien, elle m'énerve.
Nicolas Hulot dénonçait le poids des lobbies. C'est sous leur influence que l'Assemblée nationale a pris cette décision favorable aux fabricants de pesticides.
Écoutez, je ne vais pas vous expliquer là déjà plusieurs choses.
Le poids des lobbies, toujours.
Non, j'ai parlé à plusieurs députés. Je peux vous dire qu'ils n'étaient pas du tout dans les mains des lobbies. Maintenant, je vous l'ai dit, c'est une décision qui s'explique, par exemple sur l'emploi et d'autres. Je ne vais pas la défendre ici. Je vous laisserai interroger les personnes qui ont pris ces décisions.
Brune Poirson, en février, vous avez plaidé en faveur du retour de la taxe carbone. Mais le président a tout de suite dit qu'il était contre. Ça veut dire que le débat est clos ?
Le débat de la question du prix à mettre sur la pollution, il n'est pas clos, il ne sera jamais clos. Parce qu'il faut qu'on arrive à mettre un prix sur la pollution. En revanche, la façon dont nous avons mis en œuvre la taxe carbone, ça en revanche, ça ne reviendra pas comme ça, c'est certain. Ça ne reviendra pas comme ça, c'est certain. Et donc c'est là-dessus qu'il faut continuer de travailler. Mais une chose est sûre aussi, c'est qu'on ne va pas sortir du grand débat comme on est rentré dans le grand débat. C'est-à-dire qu'on ne va pas sortir du grand débat avec un impôt supplémentaire. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'il faut qu'on travaille. Mais il va falloir qu'on mette un coup sur la pollution. Bien sûr, c'est une des solutions pour sortir.
Brune Poirson, il y a un an...
Pour sortir, pardon, de la pollution et faire plus pour lutter contre le réchauffement climatique.
Il y a un an, Nicolas Hulot était votre ministre de tutelle. Aujourd'hui, sa fondation porte plainte contre l'État. Le vivez-vous comme une trahison ?
Je pense qu'il porte plainte en partie contre lui-même aussi, et ceux qui sont derrière cette pétition aussi, en partie contre eux-mêmes, parce qu'ils étaient aux responsabilités, ils étaient aux affaires. Vous savez, c'est très facile, on est tous d'accord quand il s'agit des grands principes. Oui, il faut faire plus pour l'environnement, on est tous d'accord là-dessus. Mais c'est quand il s'agit de se salir les mains et de rentrer dans le détail que là, ça devient beaucoup plus difficile.
Nicolas Hulot porte plainte contre lui-même.
En partie, il porte... Il a été aux responsabilités.
Il n'a pas
de
assez
même
agi.
Que Cécile Duflo, de même que tous. Et donc chacun emporte la responsabilité. Et il faut lutter toujours plus. Et quand vous êtes au gouvernement, oui, c'est très difficile. C'est très difficile parce que chacun défend son pré carré et vous devez en réunion interministérielle vous battre pour vos questions et pour les sujets qui vous tiennent à cœur et qui sont fondamentalement importantes. On a la chance d'avoir un président.
Avec Nicolas Hulot.
On a de la chance d'avoir un président qui est très engagé sur les questions environnementale et climatique, ce qui aide bien sûr beaucoup.
Vous êtes toujours en contact avec Nicolas Hulot ?
J'ai des échanges parfois avec lui.
Tendus, parfois.
Non.
Merci.
Merci à vous, André.
C'était l'interview politique d'Audrey Crespo-Mara, tous les jours à 8h15 sur Europe 1.
Nico Saliagas sur Europe 1.
Dans un instant, la météo de Laurent Cabrol. À 8h30, l'essentiel de l'info. On viendra évidemment sur ce samedi noir sur les Champs-Élysées. Et une dernière information, une jeune femme de 21 ans qui a été poignardée à Marseille. À tout de suite.
Il est 8h27. À tout de suite avec Nico Saliagas sur Europe 1. À suivre dans la prochaine demi-heure, Nikos.
L'homme qui lit toute la presse en pleine nuit pour mieux la partager avec vous en plein jour. Le mot-clé ce matin, David Abiker.
Bonjour Nikos, bonjour Céline. Bonjour. Le mot-clé, c'est responsabilité. Responsabilité gouvernementale ou responsabilité des Gilets jaunes après ce qui s'est passé samedi sur les Champs-Élysées.
Et à 8h40, il arrive pour faire son cirque. Vendredi dernier, il faisait rire le Premier ministre. Nicolas Canteloup sera là, au rendez-vous, évidemment.
Mais tout de suite, Nico, c'est la météo avec Laurent Cabrol et qui va nous parler du froid, c'est ça, Laurent ?
J'en ai pas assez parlé depuis ce matin, je dois dire que ça, c'est de ma faute. Il fait ce matin entre moins 1 et plus 8 degrés, vous voyez que ça n'est pas chaud du tout, sans parler du vent qui attise encore ce froid. Dans la journée, nous aurons des valeurs de 10 à 16 degrés, ce qui n'est pas énorme, et encore en baisse par rapport à hier, une pléiade de 12, Nantes, Reims, notamment, Rennes, Limoges, Lyon, Paris, 12 degrés, vous voyez que c'est pas énorme non plus. En ce qui concerne la couleur du ciel, il n'y a pas beaucoup de pluie. Vous voyez que tout est petit ce matin. Il y a un petit peu froid, un petit peu de froid, un petit peu de vent. Et surtout ces nuages qui sont très présents sur la France, mais les pluies sont parcimonieuses. Donc nous allons vivre une journée qui sera sans grande personnalité, avec quelques rayons de soleil tout de même, et de même des petites chutes de neige qui se manifestent dans l'est de la France. Voilà pour une journée sans personnalité, disais-je, avec du vent sur la Méditerranée autour de 80 à 90 km/h. Et demain, ça commencera sérieusement à s'améliorer.
À la Saint-Cyril, les journées n'ont pas de personnalité. Dixit Laurent Cabrol. Merci beaucoup Laurent, à tout à l'heure.
7h, 9h. Deux heures d'info sur Europe 1.
Nous sommes le lundi 18 mars, toute l'actualité à 8h30 avec vous Nico Saliagas.
Et tout d'abord, cette information de notre correspondante à Marseille, Nathalie Chevance. Une jeune femme de 21 ans a été mortellement poignardée hier soir, tout près de l'hôpital de la Timone. L'étudiante aurait été abordée par un individu qui a tenté de lui dérober son téléphone portable. L'agresseur présumé est en fuite. Une des images marquantes des violences de samedi sur les Champs-Élysées, ce sont ces kiosques à journaux brûlés, certains réduits en cendres. José Russo tenait l'un d'eux, il se retrouve au chômage, il a tout perdu, on l'écoute.
J'essaie de rester dans le calme et bon, faire les démarches à suivre pour tout ce qui est assurance et plainte. Moi je suis salarié dans ce kiosque. Mon patron, le kiosquier, est hospitalisé depuis 2 jours. Et le fait d'avoir vu à la télé ce qui s'est passé, ça l'a encore un peu plus effondré.
Une cagnotte a été mise en place sur Internet pour vous venir en aide.
J'étais très surpris. Moi, j'attends rien de cette cagnotte. Hein. Je vais vous dire, si vraiment cette cagnotte doit être donnée à quelqu'un, c'est au sinistré.
Qu'est-ce que vous voulez dire au gouvernement, au président de la République ?
Moi, je me dis que maintenant, il faut être actif. J'espère qu'ils vont bouger, mais ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils le fassent.
José Russo, kiosquier sur les Champs-Élysées ce matin sur Europe 1. Puis à 11h30, Édouard Philippe va présenter des solutions au chef de l'État qui a promis des décisions fortes. Hier soir, 92 personnes étaient toujours en garde à vue. Et notez que cet après-midi, Bruno Le Maire tiendra une réunion sur l'impact économique de la crise avec des organisations patronales et des représentants des commerçants ainsi que les assureurs. Le cardinal Barbarin au Vatican à 10h ce matin. Il doit présenter sa démission au pape François après sa condamnation à 6 mois de prison avec sursis pour non-dénonciation d'abus sexuels sur des enfants. Il a fait appel.
Europe 1.
Nico Saliagas, tout de suite on retrouve David Abiker pour sa revue de presse.
Avec un mot qui résume l'humeur de la presse ce matin, cher David Abiker, c'est le mot responsabilité.
Et oui, une presse de mauvaise humeur qui somme le pouvoir en premier lieu de prendre ses responsabilités après ce qui s'est passé samedi aux Champs-Élysées. Insupportable, s'exaspère le Figaro. Comment arrêter ça, se demande le Parisien aujourd'hui en France. Jusqu'où iront-ils, s'interroge la Voix du Nord et la Marseillaise se pose une question en forme d'accusation. Castaner a-t-il laissé faire ? Pourquoi ? Alors, il y a la responsabilité du gouvernement, mais il y a aussi celle des Gilets jaunes. Pour Olivier Auguste de L'Opinion, c'est limpide, je le cite. Appeler implicitement ou explicitement à la violence, rester là où les manifestations dégénèrent et offrir aux coupables la couverture de la foule, rire, applaudir, encourager, filmer, diffuser les saccages et les coups plutôt que les empêcher, tout cela fait des gilets jaunes les complices de ce qui est arrivé. Je ferme les guillemets. Les gilets jaunes ont contraint le président à réagir sur un terrain qu'il pensait derrière lui, note Cécile Cornudet, pour Les Échos. Et c'est bien ça qui étonne ou exaspère les éditorialistes ce matin. Une impression de retour en arrière. C'est le retour à la case départ, comme le titre Libération. Un titre qui évoque les violences de décembre. On rétropédale et moi ça m'évoque un vieux slogan publicitaire. Mars et ça repart.
On l'avait oublié celui-là. Alors il y a Paris bien sûr David, mais il y a aussi les signaux faibles envoyés des régions.
Oui, car il y a des signaux forts comme interdire les manifestations sur les Champs-Élysées, mais il y a aussi les signaux faibles qui racontent aussi la France ailleurs qu'à Paris. Varmatin rapporte ce matin, tout petit article, l'agression d'un gilet jaune de 60 ans sur une zone commerciale de La Valette, dans le Var, par le patron d'une enseigne voisine excédée par la préparation d'un énième barrage filtrant. Bagarre donc, résultat le gilet jaune est envoyé aux urgences. J'ai vu ça dans Varmatin, des civils qui se battent un matin en marge des manifestations de la veille, des civils. J'ai aussi regardé la vidéo de l'appel à la violence décomplexée de ce gilet jaune, plutôt suivi sur YouTube, qui menace de monter à Paris avec d'autres pour s'en prendre directement aux habitants du 16e arrondissement de Paris. Il leur promet tout simplement l'ultra-violence. C'est ce que j'appelle des signaux faibles. On ne les prend pas nécessairement au sérieux. Et pourtant, ces signaux faibles suggèrent qu'un de ces jours, en dehors des affrontements, je dirais classiques, avec les forces de l'ordre, des citoyens français pourraient tout simplement se mettre ensemble sur la figure. Dans Astérix, on appelle ça la zizanie. Dans les livres plus sérieux, on appelle ça la guerre civile.
Et puis un autre signal faible, mais qui nous raconte l'économie d'aujourd'hui, David.
C'est dans le Figaro, c'est rien du tout, quelques lignes. On peut passer à côté. C'est le géant du e-commerce, Amazon. Il quitte
le commerce pour faire de la logistique. Plus exactement, il quitte la convention collective du commerce pour rejoindre en France celle de la logistique. Ça, c'est un signal faible qui dit beaucoup de ce que devient le commerce en ligne aujourd'hui. Un métier de logisticien, de livreur, avec 80% de son effectif français qui bosse dans des entrepôts et qui gère des délais, des stocks. Alors comment on les détecte, les signaux faibles? Eh bien, en lisant, en se forçant à lire. Comme ces élèves du Chalonnais, dans le journal de Saône-et-Loire, rapportent ce matin qu'ils expérimenteront cette semaine 15 minutes de lecture obligatoire en classe. Et oui, vu qu'ils lisent plus chez eux, faut bien qu'ils lisent quelque part, ce sera à l'école. Ils liront ce qu'ils voudront, ces élèves, mais ils liront. Alors pourquoi pas, tiens, puisque c'est la semaine de la presse à l'école, pourquoi pas des journaux? Et pourquoi pas le dernier numéro de Ciel et Espace, la revue de notre confrère Alain Siroux? Et pourquoi pas le nouveau magazine lancé par notre autre confrère Éric Fotorino, Zadig, qui tire le portrait justement de cette France qui a besoin de se réconcilier avec elle-même et qui n'en finit pas d'envoyer des signaux faibles que son journal s'attachera à détecter. On pourra aussi montrer à ses élèves, obligés à lire les journaux, les pauvres, les images de ce kiosque à journaux calciné sur les Champs-Élysées. Ce sera une autre façon de leur faire comprendre que la semaine de la presse à l'école, ça les concerne autant que la grève scolaire pour le climat.
La plume, l'esprit, le décryptage, la revue de presse de David Abiker, tous les jours sur Europe 1.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
Il arrive dans une poignée de secondes, Céline Dacosta. Il paraît qu'il a remonté ce matin.
Non, pas comme toujours.
Nicolas Canteloup avec Julie pour la revue de presse. Qu'à tout de suite.
Il est 8h38, à tout de suite avec Nikos Aliagas sur Europe 1. Il est 8h40.
Il y a Julie, il y a Nicolas, il y a Canteloup, il y a la revue de presse et il y a vous. Et ça commence maintenant.
C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et voici le rappel du titre principal de l'actu avec Nikos.
Ouais, salut à tous. Salut à tous, pardon. L'info surround, c'est évidemment ces scènes extrêmement choquantes sur les Champs-Élysées. Des casseurs, vous l'avez vu, ont pillé un Célio. Oui, on vous avait prévenu, c'est choquant. Les images de Polo Célio ont circulé en boucle, des jeans Célio. Toutes ces images sont insoutenables. Un seul point positif dans ces pillages, le pillage de la boutique du PSG. Voilà, les employés ont proposé aux pilleurs de repartir gratuitement avec Adrien Rabiot. Voilà, c'est cadeau les gars.
C'est cadeau.
C'est offert, parce qu'ici personne s'en sert. Allez, à toi Julien.
Merci Nikos. Après des photos en boîte de nuit et un nouveau samedi de chaos sur les Champs-Élysées, notre ministre de l'Intérieur est dans la tourmente. Hein. Bonjour Christophe Castaner, est-ce que vous avez une déclaration à faire ce matin?
Non. Ouais, salut à tous, c'est DJ Kiki Castaner en platine. On va mettre le feu. Il n'y a pas que les casseurs aux foutettes, nous aussi. On va mettre le feu.
Monsieur Castaner, mais baissez la musique enfin. Quelle heure il est là? Il est 8h40, arrêtez.
Bah écoutez, si on n'a plus le droit de s'amuser dans ce pays, bon, écoutez, je comprends, j'entends. Bonjour à tous.
Alors, le bilan de ce samedi, monsieur Castaner, soyons sérieux.
Écoutez, nous sommes combien autour de cette table? Il y a M. Apathy, il y a vous, cher Julie Leclerc, il y a également M. Abiker, il y a M. Cabrol, nous sommes combien? 6, 7.
Il y a moi aussi.
Est-ce que M. Aliagas?
Il y a Wendy aussi.
Et Mme Bandy Bouchard. Nous sommes combien? 6, 7.
Voilà, c'est ça.
Est-ce que vous ne pensez pas, franchement, qu'il serait plus judicieux de prendre une bouteille plutôt que de prendre un verre? Hein, ça nous coûterait moins cher.
Qu'est-ce que c'est? Oh, écoutez, est-ce qu'on peut parler boulot, Christophe Castaner? Enfin, c'est quoi ça?
Pardon. Je voudrais d'abord saluer les forces de l'ordre, les forces de gendarmerie, les forces de police qui ont fait un travail formidable samedi. Aucune dégradation n'a été à constater à la boîte de nuit, le Queen, le VIP room de Jean Roch et le manco de Claudie Gomez.
Aucune dégradation, vous dites. Bon, monsieur Castaner, comment se fait-il que les Champs-Élysées aient été mises à sac de cette façon? C'est quand même pas normal.
Écoutez, j'entends. Mais en fait, pour tout vous dire, les choses se sont mal goupillées. Je pensais qu'Emmanuel Macron, que le président de la République, pardonnez-moi, gérerait la situation. Mais il était au ski. Lui pensait que je gérerais, mais j'étais en boîte de nuit. Heureusement, il s'est resté le Premier ministre qui n'a pas les mêmes passions que nous. Oui, lui est passionné par Le Havre et Alain Juppé. C'est vous dire le sérieux du bonhomme.
Oh non, écoutez,
donc il a pu, lui, nous alerter sur ce qui se passait réellement dans la capitale.
En tout cas, avant le prochain samedi, les Français attendent forcément des mesures fortes.
Absolument. Et je suis en mesure d'annoncer à votre micro trois mesures qui ont d'ores et déjà été décidées.
Ah bon, allons-y.
Le chef de l'État a, par exemple, annulé son déplacement au bowling. Laurent Nunez, mon secrétaire d'État, a décidé, lui, d'annuler sa thalassothérapie. Et moi-même, je reporte la soirée mousse et le concours Miss T-shirt mouillé que j'avais prévu et dont je souhaitais inviter M. Aliagas, que je devais organiser au ministère. Vous voyez que chacun a pris ses responsabilités.
Et puis, il y a aussi l'image de Paris qui souffre à l'international. Hein. Est-ce que vous avez un mot pour les Parisiens, M. Castaner ?
Écoutez, j'aimerais citer ce grand auteur américain qui disait...
Ah oui, Ernest Hemingway, son livre « Paris est une fête hein, ».
Non,
ça.
Corona, qui disait « This is the rhythm of the night ».
Oh yeah. Je crois qu'on va rester là. Hein.
On l'a perdu.
Oh yeah.
Merci.
Ouais, c'est DJ Kiki, DJ Castaner.
Allez,
ouais. Allez Jean-Michel Apathy, au diable l'exemplarité. On y va.
On vous laisse, s'il vous plaît. Allons. Allez, on va dire un mot de ce week-end ski du président Emmanuel Macron. Bonjour.
Le bronzé.
Et ça vous fait rire. Je ne vous dis pas bonjour à toutes et à tous. Non, mais qui a mis cette musique? C'est Romain Causeur encore. Arrêtez ça en régie, Nicolas. Vous êtes viré. Merci.
Alors, un mot de votre week-end au ski quand même, hein, monsieur Macron.
Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ma première mesure, grande mesure, post-consultation nationale a été barre-toi trois jours, faire du ski. Mais et alors, je dis, et alors il va se passer quoi? Vous allez élire Laurent Wauquiez en représailles président en 2022? Non, ce sera encore moi, je suis le seul.
Vous avez eu des mots très fermes contre les casseurs, hein, cette fois-ci.
Et je les renouvelle.
Non.
Tous ceux et celles qui se sont rendus coupables de violence, coupables de me niquer mon week-end au ski, en répondront devant la justice. On ne bafoue pas les valeurs de République. On ne bafoue pas ma soirée raclette en chalet avec Brigitte sans en subir les conséquences.
Bon, bah c'est noté, hein, monsieur Macron. Bonne journée quand même. Oui. C'est un week-end catastrophique pour le président. Les dégâts considérables à Paris, bien sûr. Les photos de son ministre de l'Intérieur en boîte de nuit. Et lui qui faisait du ski à ce moment-là. François Hollande, on sent que vous voulez réagir, vous. Hein. Bonjour.
Bravo, bravo le petit génie. Hein, le Mozart de la politique. Hein. Je vais vous dire une chose. Dieu sait que j'ai été nul. Hein. Merci d'ailleurs, monsieur Apathy, de confirmer en opinant du chef.
J'opine.
Mais Macron trouve le moyen de faire un quinquennat pire que le mien. Et pourtant, n'est-ce pas, monsieur Apathy, j'ai mis la barre très haute. Cahuzac, Léonard.
François Hollande.
C'était les sommets.
François Hollande, vous êtes vraiment choqué hein, par tout ce qui se passe.
Enfin, il y a de quoi, non. Franchement. On est un président qui se prend pour Jean-Claude Kini. Et un ministre de l'Intérieur qui se prend pour David Guetta. J'ai envie de dire aux Français, ça valait le coup de me virer, bande de cons.
Ah, vous trouvez ça grave, alors, vous confirmez.
Si je trouve ça grave, mais madame Julie, imagine-t-on un instant, monsieur Bicker, le général de Gaulle faisant de la luge ou du snowboard pendant les événements de 1968.
Non,
il a le droit d'aller au ski, notre président, quand même.
Mais il fait que ça, il fait du ski, on le voit faire du tennis, il fait du jogging. Fallait élire un prof de sport, pas Macron.
Moi, monsieur Légas, regardez-moi dans les yeux.
Oui, je sais.
J'ai du mal.
Pas ce problème.
Moi, pendant... Non, pas la bonnette, les yeux. Moi... Moi, ne me cherchez pas, je suis là. Moi, pendant mon mandat, je n'ai jamais fait le moindre sport. No sport, comme disait Churchill. C'est d'ailleurs notre seul point commun avec Winston.
Bah oui,
ouais. Ah, seul.
Certes, il m'est arrivé, oui, de descendre une raclette, de descendre dans les sondages, mais jamais descendu une piste ou fait le moindre sport. Oui. Qu'est-ce qu'il y a, madame Lacosta? Oui, je comprends. Oui, madame Leclerc. Oui, madame Costa. Oui, madame Bouchard. Oui, je vois que vous me scrutez. Je sais que c'est difficile à croire quand on voit ce corps sublime. Mais ce corps d'Adonis. D'Adonis. Oui, j'ai bien les nuts. Il n'y a plus, il y avait des... Oui, bon. Mais ce corps n'a jamais soulevé le moindre haltère.
Bon, on vous croit et on vous laisse, hein, monsieur Hollande.
Le moindre. Allez. Ou la moindre haltère, je ne sais pas.
Le moindre, on a vérifié, c'est masculin, mais on a eu un doute. Un gros doute sur haltère.
Alter ego.
Oh, bravo, oui. Nico.
Oui, ça vient de nulle part, mais c'est bien.
Je voulais marquer le coup.
Oui, c'est bien.
Exactement ça.
C'est votre alter ego, Julie, je voulais dire.
Ah oui, bien rattrapé. Bien. Un vrai chat, ce monsieur.
Merci, monsieur Hollande, à bientôt.
Oui, on bientôt.
On revient sur ce nouveau week-end de violence sur les Champs-Élysées avec Nicolas Sarkozy. Bonjour, monsieur Sarkozy.
Oui, bonjour, bonjour à tous et à toutes. Merci de m'accueillir. Bonjour. Oui, 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 oui. Vous avez vu ces images terribles d'une violence inouïte. Mon Fouquet's à moi, tout cramé, tout détruit, qui ne ressemble plus à rien aujourd'hui. Franchement. Les gilets jaunes, si vous vouliez vraiment cramer un truc sur les Champs-Élysées, vous auriez pu cramer une boutique des Eagles, hein, parce que leurs fringues, franchement, hein, toutes bariolées, qu'est-ce qu'elles sont, hein, franchement, elles sont regardables.
Ah, mais arrêtez, oh là là.
Mme Dacosta est d'accord, c'est moche, franchement.
Bon, c'est bigarré, c'est goût, hein. Allez, un mot de Christophe Castaner. Vous avez été ministre de l'Intérieur, hein, un ministre très apprécié d'ailleurs. Ça vous inspire quoi, ces escapades nocturnes de M. Castaner?
J'ai mal à mon ministère de l'Intérieur. Est-ce qu'on imagine... Non mais franchement, prenons du recul, de la hauteur. Est-ce qu'on imagine un instant Charles Pasqua danser la Macarena avec Nabila à 4h du matin, franchement? Non, Pasqua, en ministre de l'Intérieur, il disait « Il faut terroriser les terroristes. Hein, pas il faut assister les assistantes, ou il faut pêcher les michetots, ou il faut cajoler les cagoles.
» Merci, monsieur Sarkozy. Allez, Bruno Le Maire a fait son maximum pour justifier la privatisation des aéroports de Paris, ou plutôt l'octroi d'une concession privée de 70 ans. L'opposition est contre, car l'entreprise rapporte des millions d'euros à l'État. On va en parler avec Bruno Le Maire, qui a décidé d'expliquer sa position chez Jean-Pierre Foucault.
Bonsoir, ma soeur Julie, bienvenue dans cette nouvelle émission de Qui veut paumer des millions. Et ce matin, je reçois Bruno Le Maire. Bruno Le Maire, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Foucault. Puis-je vous appeler Jean-Pierre? Merci de m'inviter, Jean-Pierre.
Je vous en prie, Bruno. Alors, je vais tout de suite à Qui veut paumer des millions. Première question. Je suis l'État et je dispose d'une entreprise rentable, les aéroports de Paris, en pleine croissance. Que dois-je faire avec? Je la vends? Réponse A. Je la vends et je fais un massage des épaules aux actionnaires en prime. Réponse B. Je la brade à moins 50% et je fais une danse du ventre aux actionnaires sur la trabâche d'Alamoukère. Réponse C. Je la file 1 euro à un pote de chez Vinci et je lui lèche ses chaussures. Réponse D.
Écoutez, monsieur Foucault, ce n'est pas facile. Toutes les réponses sont intéressantes. Mais c'est vrai que j'aime bien l'idée de faire un massage aux actionnaires. Mais c'est vrai aussi que lécher les chaussures, c'est bien aussi. J'hésite. Je vais plutôt prendre une autre option. Je vais dire, je leur cède une concession sur 70 ans. Réponse E, est-ce que je peux?
Bien joué, Bruno. Petit talent, monsieur le maire. C'était un choix possible et vous venez effectivement de paumer des millions. Bravo à vous. À propos, est-ce que vous pouvez me prêter, c'est une question subsidiaire, me prêter 300 euros? Je voulais rendre en 70 ans.
Mais bien sûr, monsieur Foucault. Vous voulez un massage avec?
Merci, Bruno. C'est bien volontiers. Quel fin négociateur, ce Bruno. À vous, Julie.
Merci, mon cœur.
Bravo, la revue de presse quotidiennement sur Europe 1 avec Philippe Cavrivière, Laurent Vassilio, Arnaud Demange, des auteurs, et vous, ma chère Julie. Cher Wendy, comme dirait Castaner version Canteloup.
J'adore.
Wendy Bouchard.
Ravie de vous retrouver.
Le tour de la question pour bien commencer la semaine à partir de 9h avec deux sujets. Que vous partagez avec nos auditeurs.
Absolument, et nos invités pour leurs analyses, vos témoignages évidemment. On va d'abord commencer avec cette crainte de marée noire à 300 km de La Rochelle, ce navire Grande America qui est à 4000 mètres de fond, mais avec 2000 tonnes de fuel, des matières très dangereuses à son bord. Pourquoi tous les 3 jours encore aujourd'hui dans les mers du globe, un navire fait naufrage entraînant ce type de marée noire? Depuis le scandale de l'Erika, il y a eu quand même des efforts en matière de sécurité, mais on fait le tour de la question avec Corinne Lepage, Christian Bûcher, nos invités. Et puis à 10h, qui dirige la Macronie, la communication du moins? Comment Emmanuel Macron a-t-il pu en effet se trouver au ski en ce jour de 18e acte des Gilets jaunes, attendu comme si massif justement d'Emmanuel Macron à Castaner? Vous avez entendu dans certains cortèges les slogans, c'était Macron au ski, Castaner au whisky. Ça donne une bien belle image de notre gouvernement. On fait le tour du sujet une fois de plus avec Robert Namias et Olivier Beaumont du Parisien.
Wendy Bouchard à partir de 9h sur Europe 1.
À suivre la météo avec Laurent Cabrol et puis l'essentiel de la matinale juste avant 9h sur Europe 1.
Bonne matinée.
Il est 8h56. 6 à suivre l'essentiel de la matinale, mais tout de suite la météo, Nikos, avec Laurent Cabrol.
Laurent Cabrol.
Avec quelques averses, quelques ondées, les ondées qui ressemblent à des pluies d'étoiles parce qu'elles tombent de manière éphémère, rapide, brève, et ensuite elles disparaissent. Donc nous avons ce type de temps sur pratiquement toute la France, avec une mention, disons, aggravante sur la Bretagne, la basse Normandie, l'estuaire de la Loire, où dans ces contrées les pluies seront un petit peu plus présentes. Enfin, je parle de pluie, je parle d'averses. En fait, le ciel gris restera présent, lui, sur la Franche-Comté, la Lorraine d'Alsace et les vallées alpines. Et puis sur Paris, une intempérie ou deux, mais pas plus, comme sur les Ardennes, la Haute-Normandie. Enfin bref, sur l'ensemble des régions de France, ce sera un temps, ma foi, assez épars et assez disparate en ce qui concerne les nuages et les éclaircies. Les températures entre 11 et 16 degrés.
Merci Laurent Cabrol, à tout à l'heure.
Nous sommes le lundi 18 mars, on revient sur les moments forts de cette matinale, Nikos Aliagas.
C'est terminé, dixit le président de la République Emmanuel Macron, furieux après les très graves débordements samedi sur les Champs-Élysées. Le Premier ministre Édouard Philippe reconnaît des dysfonctionnements dans le maintien de l'ordre. Il est attendu à l'Élysée à 11h30 pour proposer des mesures au chef de l'État. Lesquelles ? Comment calmer les violences ? Écoutez l'analyse de Jean-Michel Apathy, c'était à 7h40.
La question du remplacement de Michel Delpech, préfet de police de Paris, est sur la table. Maintenant, les choses sont très claires. Samedi prochain, on ne peut pas connaître les violences que l'on a connues samedi dernier. Cela poserait une question d'autorité, de crédibilité du gouvernement. Tout à l'heure, donc, des dispositions devraient être prises pour qu'elles cessent. Mais ça n'est pas facile. Le raisonnement des Gilets jaunes est très simple. Tant que nos revendications ne sont pas satisfaites, la violence est légitime. Comment maintenir l'ordre dans une société démocratique quand des citoyens ne jouent plus le jeu de la démocratie ? C'est la difficulté à laquelle est confronté le gouvernement.
Et puis un témoignage fort ce matin sur Europe 1. Un an après le terrible attentat de Trèbes qui avait fait 5 morts et 15 blessés, je recevais à 7h45 Nicole Beltrame, la mère du lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, mort en héros en prenant la place d'une otage dans le Super U de Trèbes. Sa mère publie « C'était mon fils » aux éditions Albin Michel. On écoute son témoignage ce matin.
Ça a toujours été comme ça. Il est né pour la patrie. C'était son Graal. À aucun moment, il allait se sacrifier.
Il avait même l'intention de se marier.
Bah, c'est pas l'intention, c'était prévu.
Vous ne voulez pas que nous citions, nous, journalistes, le nom du terroriste ?
Absolument. On lui montrait son visage. Parce que ça, je veux dire, ça sert à rien. Je veux dire, ce qu'il faut montrer, c'est les choses positives, les belles choses.
Mais vous le faites pas dans votre livre, vous n'en parlez pas.
Non, il n'existe pas pour moi.
Il n'y a même pas de haine.
Oh non, ce serait trop donné. C'est l'indifférence.
Nicole Beltrame, la mère du colonel Beltrame, qui publie un ouvrage aux éditions Albin Michel, c'était mon fils. Beaucoup de réactions après cet entretien, notamment de Sylvie Baird sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Je la rejoins sur le fait de cesser de montrer les assassins. Ça ne veut pas dire nier les faits, mais cesser d'en faire des héros. Les vrais héros, eux, sont lumineux, nous dit Sylvie Baird. Voilà pour l'essentiel de la matinale. Merci de votre confiance. Céline Dacosta, je vous dis à demain.
À demain, Nikos.
Merci à toutes les équipes techniques et éditoriales et à vous, chers auditrices et auditeurs. Restez à l'écoute et prenez soin de vous. À demain. Wendy Bouchard arrive tout de suite.
J'arrive avec vos appels au 3921, les amis. À demain, Nikos.